She like me, she might be what I need. She get spicy, want taste test, come bite me, yeah. I'm icy, way too icy. I get paper, I'm big screen, I'm Spike Lee. I'm vibing, just vibing. Too wavy, I can tell they wanna get like me, yeah. I'm vibing, just vibing. Too wavy, come and get like me. I'm never living a bit in a timid straight shooter. I'm dumping the clip that I'm dipping. Hitting the mark with the weightiest art. I rage with my heart and it's right with my wrists. Cut up the pay with the real ones. I see a few million. We want it, we need it, let's get it. Long live the niggas that get it. They live how they say it. A sentence, we really the trillest. Please don't pretend with that love that you sending is fuck. If you like me, I call me the Bennett. Somebody tell God forgive me. I'm sinning. I think that she know, but he got me. I'm winning. Cloud is a dangerous drug and your phone is the plug. Everybody on that shit pretending. So many lost and they chasing what's trending. Well, yeah, let's forget it. I'm back to my sis. I'm only helping a man in the mirror. From here on, I'm open. I'm focused. Okay, I lied. If you riding, I'm riding. I put on the pogues and trust in me. Get with it, come fuck with me. I don't, but it's love, you stuck with me. I'm coming and clutch for me. Get with it, they get lost, ain't nobody touching me, yeah. She like me, she might be what I need. She get spicy, want taste test, come bite me, yeah. I'm icy, way too icy. I get paper, I'm big screen, I'm Spike Lee. I'm vibing, just vibing, too wavy. I see they wanna get like me. Yeah. I'm vibing, just vibing, too wavy. Come and get like me. She like me, she might be what I need. Too icy, way too icy. I get paid. I'm vibing, just vibing. Too wavy, I can tell they wanna get like me. Yeah. I'm vibey, just vibey. Too wavy.
3, 2, 1. Like
before you tell me that I've changed a lot, take a minute to consider a lot has changed me.
Hey, bonjour les amis. Comment ça va? J'ai eu plein de messages qui m'ont fait rire dans le chat depuis le lancement de ce live il y a 2 minutes et des brouettes, c'était la durée de ce morceau, notamment celui-ci. J'étais là hier soir à minuit, déjà sur ton live. Je crois que je ne parle pas trop fort, mais je crois qu'on l'a terminé vers 1h30 du matin. Attends, je regarde. Je crois qu'on a terminé à 1h30. Attends. 1h39. Ouais. Peut-être que certains étaient hier soir à 1h39 avec moi pour Duvalo. On a joué de 21h49 à 1h39. Waouh, c'est très précis. Et puis, je vous l'ai dit, bah, tout à l'heure, à tout de suite, puisque en ces temps d'actualité dense, troublée diront certains, bah, je pense que la revue de presse s'impose un peu. Donc, la nuit a été courte, mais la soirée a été belle et la matinée s'annonce du même acabit. Merci beaucoup, Zeltouillette, pour cet abonnement offert à la commu, trop gentil. Bah, dites comment vas-tu, merci beaucoup pour ce 33e mois, ça commence à faire beaucoup. Merci Picouk pour le Prime, merci Planetscape Sigil pour le 12e mois, professeur Ramolos. C'est intéressant parce qu'on va parler des enseignants et la progression du vote RN chez les enseignants, ce qui est un phénomène assez étonnant, on en parlera. Donc bonjour à professeur Ramolos, merci pour ce 2e mois. Yo à toi aussi, Captain Oui, merci pour le 35e mois. Je crois que tu as été le premier à sub de la matinée, Captain Oui. Et à l'instant, Monsieur Fives, à qui je donne un high five, vient de lâcher un abonnement à la commune. Merci à toi. Dormir, c'est pour les faibles. Ouais. Je ne suis pas sûr que mon hygiène de vie soit un exemple, mais bon, voilà, je suis heureux comme ça, donc on va faire comme ça. Je suis heureux de vous retrouver. J'ai lu les journaux pour vous ce matin. Je me l'étais promis notamment parce qu'il y avait un truc important hier soir à 18h, la clôture du dépôt des listes pour le second tour des législatives. Donc les cartes sont sur la table. Et on sait quels vont être les candidats. Est-ce qu'il y a des désistements? Est-ce qu'il y en a beaucoup à qui ça peut profiter? Est-ce que ça peut empêcher, puisque c'est le souhait de certains, le RN d'arriver au pouvoir, majorité absolue, majorité relative? On va en parler de tout ça, mais pas seulement, il y a plein de choses. Bien sûr que j'ai souhaité l'anniversaire à Fugu, mon Fugu avec qui je vais jouer jeudi soir, avec Elidia. Comment s'appelle ce jeu déjà? Ah, je suis vieux. Tiens, mais j'ai pas tweeté moi, ce matin. Ouais, on a écouté la chanson de Nopa Saran, ouais, hier un petit bout, j'étais... Pas convaincu. Chain Together. Ouais. Hop, attends, je tweet le fait qu'on stream ce matin. Voilà. Chain Together et Lydia, Fugu, jeudi soir, demain, Chain Together. Qui va rage quit en premier? LA1, je ne sais pas. C'est pas moi. jamais je rage sur un jeu. Hein. Merci, Happy Fellas, pour le deuxième mois. Fellows? Fellas? Oh, comme les, ok, comme les gars, quoi. Merci à toi. Eclectic, merci beaucoup pour le Prime. Nyandra, merci pour le 7e mois, tout gentil. Ouais. Jamais. Hein? Est-ce que j'ai déjà ragé sur un jeu? Hein? Ouais. Arwen C, perso, j'ai jamais vu ça me rager sur un jeu, donc c'est inconcevable de le voir rager. Rage quit, ok. Même pas hier, non. Newcats, non. Jamais ça me n'a ragé. Ouais, ok. Ouais, ça va être très très drôle. Je pense qu'on va bien rire. Ouais. Et je crois qu'on a aussi besoin de se détendre. Hein, en cette période où, certes, on a besoin de s'informer et de mettre un peu de sens sur tout ce qui se passe en ce moment, mais c'est bien aussi de se détendre. D'où le double stream hier, revue de presse le matin et puis Valorant dans la soirée. Je rappelle que normalement le deal familial avec mon amoureuse qui me supporte dans tous les sens du terme et les enfants, c'était un stream par jour, sauf que hier on a eu un dîner en amoureux avec Hélène, puis on est rentré assez tôt et puis elle m'a dit vas-y, je vais regarder mes séries, tu devrais lancer un petit live. Ok, let's go. Donc double stream, mais ne vous habituez pas à ce rythme, normalement c'est un stream par jour. Là par exemple, a priori il n'y a qu'un stream aujourd'hui. Merci Papy X Krieger pour le soutien. À l'instant, comment ça va vous? Bah c'est ça l'amour. Voilà. À quelle heure Chain Together demain? Ah, je ne sais pas, Inis Live, tu sais, avec les jeunes. Déjà, on s'est calé une date. Voilà, c'est, je ne sais pas, 18h, 19h, 20h. Je ne sais pas quand ils veulent streamer les jeunes là. Hein, les chouchous là. Donc, c'est eux qui décident, je ne sais pas, entre 18h et 20h, quoi. Enfin, on va dire ça. Tu streams souvent le matin et le soir? Oui, Mathilde. Moi, c'est surtout le matin et le soir, exactement. Marvel BZH, mon dernier jour dans la 30e, à la trentaine aujourd'hui. Quoi, tu as 40 ans demain, c'est un truc comme ça? On veut du Valo la nuit, nous. Ah, il y en a eu hier soir, Big Baguette. Hein. Le trail. Par pure curiosité, pourquoi n'avoir jamais essayé le trail running alors que tu as pas mal couru? Gibrable, mais tu connais pas mon palmarès de fou. Bah, si, j'ai fait du trail, moi. C'est pas ma spécialité, mais j'ai fait la Saint-Élion deux fois. Un petit 75 km sur les collines entre Saint-Étienne et Lyon. On descend bien quand il fait froid, quand il neige, quand il y a du verglas. J'ai fait le marathon des sables de 150 km en 6 jours deux fois. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore? J'ai fait la Transgrande Canaria, 160. Je sais plus combien elle faisait, c'est 140 km. Mais je me suis blessé au milieu. J'ai arrêté à la moitié, vers 70 bornes. Ouais. Donc j'en ai fait un petit peu, mais bon, c'est pas ma spécialité. C'est vrai que moi je suis plutôt plat. C'est les Bretons, ça n'avait pas trop de montagne chez nous. Du coup, je suis pas en Corse pour le GR20 pour répondre à Pitovski. Je suis en Corse pour me reposer, pour boire du café, pour streamer avec vous, pour aller à la plage ou à la piscine avec les enfants, voilà, le bonheur, quoi. Merci à El Batardin pour le soutien. Mais Zeltouillette, t'as déjà sub tout à l'heure, non? Zeltouillette. Mais oui, Zeltouillette a offert un abonnement à la commu il y a 4 minutes et il prend un sub pour lui ou pour elle à l'instant. Ok. Tu as couru aussi après l'amour et tu l'as rejoint pour courir à ses côtés aussi. Oh, Yflin, c'est trop. C'est vrai. J'ai longtemps couru après l'amour et puis un jour je l'ai rattrapé. Pourtant je courais pas vite. Tu avais dit que tu streamerais d'autres jeux que Valo aussi. Ouais, bah oui. Et jeudi soir, Chain Together, c'est quoi? C'est du poulet? Alors? Et puis il y aura du The Witcher, il y aura plein de trucs. Mais voilà. Bon, aujourd'hui, en ce moment, on est surtout sur l'actu, quoi. La Saint-Élion deux fois, Yann, déjà. Ouais. Ouais. Et puis, je stream pas que du Valo. Je stream du Valorant aussi, parfois. Red Dead Redemption, j'y songe. C'est quoi en let's play? C'est quoi le... Red Dead, je connais le jeu, mais en let's play, ça veut dire quoi? La Saint-Élion, ça a l'air dur. Wow. T'es bien entraîné, ça va, ouais. C'est quoi en let's play? Ça veut dire quoi? C'est faire le jeu en entier. En entier? Mais vous avez vu mon niveau de jeu, mais je vais y passer 15 jours. C'est quand tu fais l'aventure de streaming de A à Z. Ah ouais. C'est une émission où tu fais le jeu en entier en commentant. Mais avec mon niveau de jeu, c'est des streams beaucoup trop longs. Merci Toweli pour l'explication. Wow. Ok. Mais ça va durer 4 jours le let's play dont vous parlez là. Bah, je vais attendre que les enfants soient chez leur grand-mère alors. Ok. Un let's play de Valorant, mais on peut pas finir le jeu sur Valorant. À un moment, tu meurs toujours. Ah, tu n'es pas obligé de le faire d'affilée. Ah, bah c'est ce que j'ai fait sur Detroit Become Human, par exemple. J'ai fait un let's play sur. Bah voilà, comme le gars qui faisait de la pro sans le savoir, là, j'ai fait du let's play sans le savoir. Detroit Become Human, j'ai fait ça. Hein ? Merci. Hein ? C'est ça ? Ah, ok, d'accord. Ok, bah, j'avais pas la ref. Hein, c'est ce que j'ai fait. Ouais, Elden Ring, pas sûr. Ça a l'air bien en vrai, mais j'ai peur de mourir très beaucoup. Bon, et vous, ça va la vie, le moral, les vacances, tout ça, les examens. Vicky 11, merci pour le 10e mois à l'instant. Comment ça va vous ça ? On est là pour ça aussi. Hein. Pas que pour parler des mauvaises nouvelles. Un peu malade, mais ça va. Nagayon, on t'envoie de la force. Bof, bof. Oh, t'as le blues, qu'est-ce qui se passe ? Le moral, ok. Ok. Ouais. J'étais au Tour de France, c'était top, me dit Bapong. Merci, TomTom75, trop gentil. Ça va, il pleut alors que dans une heure, il y a la flamme olympique. Ok, pas de souci. Bon, ça va être prévu pour. Bientôt fini les études de droit. GG Big Baguette. On l'attend d'un retour pour changer de boulot, gros stress, Tangerine, Nightmare, je connais ça. Hein, quelle source de stress le taf parfois. C'est pour ça qui est bien sur Twitch, c'est que tu prends un peu ton destin en main. Et c'est un truc très séduisant de cet outil. Quoi. Ouais. Qui est le con qui a réveillé Sam à 7h? Vous avez vu ses yeux? Totaline, note acturée, c'est vrai que j'ai un peu les yeux explosés. Le con qui a réveillé Sam, c'est moi. J'ai mis le réveil vers 5h et les brouettes. T'as l'air fatigué, c'est sympa, j'ai dormi 3h quoi. Bon, c'est un peu mon état normal en vrai. Tu dirais que j'ai pas une tête. Hein? Je suis pas au top là de mon visage, on va dire. Mon cerveau. C'est vrai que t'as l'air éclaté. Ouais, je sais. Ouais. Non, les yeux sont éclatés, mais le cerveau il est bien. Ouais, parce que. Café. Pour se réveiller un petit peu. Hop. Petit cocktail perso là. Ah, impeccable. Merci Circe74 pour le 7e mois. Arnaque-moi si tu peux, comment vas-tu? Heureux de te voir, 6e mois d'abonnement. On peut dire mon petit café Red Bull, ça va mieux tout de suite. Hein? On y va? Résiste. Je vous abandonne à 11h45. J'ai une réunion. Teams, truc de jeune là, vidéo, tout ça. Là. Merci Suteki pour le Prime, Suteki FR. Est-ce que je vous fais un petit sommaire sur ce qu'il y a dans l'info de presse ce matin, ça vous parle? Attends, vous êtes déjà nombreux, c'est vous, ça fait plaisir en vérité. Un an de prépa, maintenant je rattrape tout le sport que j'ai pas fait. HB, c'est la meilleure vie ça, hein. Bravo. Hein. Ouais. Ouais, je team sans vacances, ouais. J'ai vraiment une vie de con. Ouais. Mais bon, faut bien préparer la rentrée sur Twitch. Hein. Tout ça, c'est Twitch. Hein. Les jeunes sur Teams, oui, se moquent Sugar Frog. Ouais, oui, mais enfin. Ah, Teams, c'est plutôt pour les vieux? Ah, ouais. Non, mais pour moi, c'est pour les jeunes. C'est-à-dire que moi, jusque-là, je faisais mes réunions par Minitel, si vous voulez, ou par fax. Les moustiques, ici. Donc, pour moi, c'est pour les jeunes, ça. Je suis en Corse, Bapong. Je suis en Corse. Comme tous les mois de juillet, je suis amoureux d'ici. Je pourrais vivre ici. J'adore la Corse. C'est d'une beauté. Infini quoi, je pourrais vivre ici. Le problème c'est pour faire. Je pourrais bosser ici, streamer ici. Mais bon, pour faire venir les invités pour les émissions, ce serait plus compliqué quoi. Ouais. Ouais. Quel côté en Corse je donne pas trop mon adresse à Urek parce qu'après les viewers viennent prendre l'apéro et ça me coûte une blinde. Et puis le viewer ça boit beaucoup. Hein. Ça boit. Bien sûr, j'ai ma procuration diesel, tu me prends pour qui bordel? Tu crois que je vais pas voter? T'es fou ou quoi? Diesel, enfin! Merci Zel. Oh, Zel Touillette, tu régales. Merci pour les beats. Oh, trop gentil. Merci pour le message pour la Corse. Nord au sud, je dis pas. Je dis pas, après, ça va. Ils vont, vous allez, là, vous êtes combien? Vous êtes plus de 2000, ça va faire la queue au portillon pour boire des apéros, quoi. Ça va pas, non? Salut les punks à chat, salut Picsou. Ça se passe comment la procuration? D'ailleurs, c'est super simple, tu vas sur Internet, tu remplis un questionnaire, pam, bam, tu fais valider ton identité dans une gendarmerie, dans un commissariat, ça prend genre une minute chrono, c'est incroyable, c'est super rapide. Et après, tu trouves quelqu'un pour voter à ta place qui veut bien aller dans ton bureau de vote. Une personne, une procuration. Une personne ne peut pas voter pour plus d'une personne. Voilà. C'est, en fait, je m'en faisais une galère, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de procu. En fait, c'est super pratique. Ouais, je vote aux deux tours. Je vote aux deux tours en procuration. Salut compagnie créole, salut Julien, comment vas-tu? Blue Blouch. Ouais. Faites jeudi, valider vendredi, plus rapide, tu meurs. En fait, c'est super simple. Ouais. Tu peux même faire valider ta procuration sans avoir à te déplacer aujourd'hui. Ouais, mais il faut que ta carte d'identité soit au format machin, là, tu sais, carte de crédit. 1, 2, que ta carte d'identité tu sois à la fois elle soit reconnue numériquement et pour ça, il faut être déplacé en mairie auparavant. Donc, tu peux faire valider ta procuration sans te déplacer, mais il faut avoir tout un process, fait un process avant que personne n'a fait, ou très peu de gens. Donc, oui et non. Ah ah ! Je sais tout ! Le mec, il pète un câble. Je sais tout ! Dans les mois de n'importe quoi. Mais qui est con. Je suis l'élu. Voilà. Bon, on y va ? Petit sommaire ? 894 fois 543, 23 multiplié par 6. On était sûr qu'il y avait des questions comme ça. Ouais. Non, je suis pas très bon en calcul mental. Par contre, je sais tordre des cuillères rien qu'avec la pensée. Néo, c'est tout. Ouais. Et moi, je rentre dans les ordinateurs aussi. Comme ça, mais littéralement. Moi, quand j'ai un problème de PC, je rentre dedans. Voilà. Mais moi, puis avec mes petites mains, après, je serai partout. Néo. Est-ce que vous êtes prêts pour un petit sommaire? Pour les ceux qui sont là pour la première fois, au début, je commence la revue de presse par un sommaire. Comme ça, je donne en 4 minutes l'essentiel de l'actu, pour ceux qui n'ont pas 2-3 heures à consacrer. Quoi. Hein? Est-ce que j'ai un... Il y a Coutonchu qui a tapé point d'exclamation coupe de cheveux dans le chat. Ok, d'accord. Ok, il faut que je fasse un bot. D'accord. Sachez que je me coupe les cheveux moi-même, et que c'est l'un des services que je vous propose. D'ailleurs, je coupe les cheveux. Voilà, je me déplace en région parisienne. Voilà. Je coupe les cheveux essentiellement des hommes. Les femmes, je fais pas trop, mais bon, je suis prêt à tenter des trucs. Voilà. Les enfants, Hélène veut pas que je m'entraîne sur les petits. J'ai interdiction. Mais je me coupe moi. Pour l'exclamation calvitie, ok. Un gros ban def pour. Attends. Pour Nick Selios. Allez, un gros ban def. Non, pas du tout, bien sûr. Tu n'as pas de cheveux pourtant. Ok, Asgard, ok. Ok. Ok, ok. Attention parce que j'ai le clic droit un peu chaud. Hein. Ouais. Tu peux apprendre sur le tas, c'est comme pour devenir médecin. Serein mais révolté, j'ai la ref. J'ai la ref, j'ai vu cette candidate RN qui disait c'est un petit peu ça, là, que c'est peut-être la solution à la crise du secteur médical en France, que bah, on laisse un petit peu les gens apprendre sur le tas. Hein? J'ai vu cette interview qui est juste assez géniale. Ouais. Bon, let's go pour le sommaire. Est-ce que j'ai un go? Même si j'ai pas de go, j'y vais pas. J'ai un go? Ou j'ai pas un go? J'ai un go? Ok. Vamos nos chicos. Ok. Ça fait 2 jours que je vous dis qu'il va se passer un truc important le mardi soir à 18h, donc hier à 18h. Hier soir à 18h, c'était l'heure limite, de jour limite, pour déposer bien les listes pour le second tour des législatives. Donc, savoir qui serait candidat au second tour des législatives pour les députés, bien sûr, qui n'ont pas été élus au premier. Bon, c'était hier soir à 18h, et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, dans plein de circonscriptions, dans près de 300, je crois, c'est énorme, il y avait des triangulaires, donc avec 3 candidats qualifiés pour le second tour, puisqu'ils étaient au-dessus de 12,5% des inscrits dans les circonscriptions. Et donc, possibilité pour certains de se désister, se retirer, hein, pour notamment faire barrage au Rassemblement National, l'empêcher d'accéder au pouvoir, l'empêcher d'accéder à une majorité absolue, voire une majorité relative. Donc, ça, c'était hier soir, et ben, on sait à peu près ce qui s'est passé. Donc, les Échos en parlent, c'est le journal qui en parle le plus... Clermont ce matin, majorité absolue, les clés du match. Il y a eu près de 220 désistements pour faire barrage au RN au deuxième tour, ce qui est beaucoup. Sachez que la méthode... Ça va, madame Guesmer ? Guesmer, Merguez. Sachez que la méthode du retrait n'est pas fiable, protégez-vous. Madame Guesmer, c'est du vécu, ça ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas possible. Donc, 220 désistements, c'est beaucoup, mais il aurait pu en avoir plus. Donc, on va en parler. Législatif, près de 220 désistements pour faire... non, je ne vais pas me connecter à mon téléphone. Pour faire barrage au RN, on verra ça tout à l'heure. Donc, c'est vraiment le journal qui est le plus complet là-dessus. Voilà. On verra qui se désiste. Hein. Vous pensez que c'est démocratique le retrait, demande Hupnono. Attends, de quel retrait on parle ? Le retrait de Mme Guesmer ou le retrait pour les élections ? Merci Naya pour les bits. C'est le en gros, c'est le coitus interruptus pour... parce que c'est ça dont on parle, ou c'est du retrait politique. Lequel ? Parce que moi je suis perdu avec Mme Chipot là. Hein ? Samuel, on t'entend parler dans ton micro. Hein ? Il y a Weshden Corleone qui dit « Samuel, on t'entend parler dans ton micro ?» Ok, il y en a qui sont encore plus fatigués que moi. Bon, alors, donc, il y a des retraits, hein, il y a des désistements de candidats qui appellent leurs électeurs à voter contre le RN. Mais, question du Figaro, les électeurs appliqueront-ils les consignes de vote contre le RN ? Ça, c'est une vraie question, voilà. Samuel, on te voit dans la cam. Oh, il est vraiment fou. Il est pourri ce stream. En montant, on me voit, ça va pas du tout. Et après la vague de désistement, le Front républicain a l'épreuve des urnes, c'est ça. Hein. Est-ce que les électeurs vont suivre les consignes de vote et ben, on sait que c'est de moins en moins le cas. Hein. C'est de moins en moins le cas. C'est-à-dire que les citoyens sont de plus en plus indépendants par rapport aux consignes des politiques. Ce qui en soi pas une mauvaise chose, c'est une forme de maturité politique citoyenne. Mais bon, là, ça ne fait pas les affaires de ceux qui veulent faire barrage au RN. Quoi. À propos du RN, bon, moi, je trouve très intéressant de se pencher sur le profil, les motivations, les valeurs de ceux qui votent pour le RN. Hein. Personnellement, vous savez que ce n'est ni mon vote ni mes convictions, je ne le cache pas. Mais je pense que si on souhaite combattre ce vote, bah, il faut convaincre. Ces électeurs que ce n'est pas la meilleure politique pour notre pays. Voilà. Donc moi, je trouve intéressant et très important de s'intéresser à ces électeurs. Au-delà des comportements parfois faciles, une prise de position morale et les insultes aussi. Vous voyez ? Comme le dit Erzilay dans le chat, c'est plus important d'écouter et comprendre le vote RN que de jeter l'opprobre sur les électeurs et de les marginaliser, clairement. Voilà, tu le dis mieux que moi, c'est exactement ça. Plonger dans la France qui vote RN. De Denain dans le Nord à Nice, dans les Alpes-Maritimes, Nord ou Sud. Il y a Ben Pollet qui veut savoir si je dors en haut ou en bas. Je dors en haut, moi. Nos reporters sont allés à la rencontre des électeurs qui ont placé le Rassemblement national en tête au premier tour des législatives. On ne les a jamais essayés, hein, ça c'est un des grands arguments des électeurs du RN, mais il y en a d'autres, on se penchera là-dessus. Encore une fois, il s'agit, je pense, pour ceux qui souhaitent lutter contre ce vote, eh bien de s'y intéresser, de le comprendre, et pas se mettre des postures morales qui, hélas, parce que parfois la notion de moralité n'est pas inintéressante, ne convainc personne. Quoi. Hier, quelqu'un m'interpellait, ou avant-hier, sur... oui, Samuel, tu dis qu'il ne faut pas... C'était un peu rude, d'ailleurs. Il ne faut, faut pas se moquer des électeurs du RN. Là, ce n'est pas que débat du Front. Hein, du Front National, bien sûr. Mais quand même, les enquêtes sociologiques sont catégoriques. C'est quand même auprès des classes les plus populaires et les moins éduquées, celles qui ont fait le moins d'études, que ce vote est le plus fort. Alors, bon, un, oui, historiquement, c'est auprès des classes populaires, ouvrières, salariés avec petit salaire, que le FN hier et le RN aujourd'hui recrutent le plus, historiquement. Deux, ne pas avoir fait d'études n'est pas un signe d'inintelligence. Il y a des gens très intelligents qui ne font pas d'études. Et il y a des gens très très bêtes qui font des études supérieures insensées. Hein, vous en connaissez tous. Voilà. Et ne rentrons pas, comme le dit ESPA-FR, dans le mépris de classe non plus. Hein. C'est une forme de mépris. Et puis par ailleurs, dernier point, ce vote est en train de changer. C'est-à-dire que ce vote qui hier ne touchait pas les cadres, par exemple, hein, les salariés cadres, moyens et supérieurs, eh bien c'est le cas aujourd'hui. Ce vote qui ne touchait pas les enseignants, les professeurs, bon, c'est des gens qui font quand même des études assez poussées, eh bien, aujourd'hui, c'est le cas. Là, par exemple, j'ai un article du Figaro qui souligne que, selon une étude menée par le CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique de Sciences Po, donc c'est le journal Le Monde, donc une étude assez carrée, assez sérieuse, eh bien, un enseignant sur cinq avait l'intention de voter RN à ces législatives. Alors qu'il y a quelques années, on était proche de zéro, quoi. Enfin, 3%, quelque chose de très très réduit, quoi. 1 sur 5, 20%. Donc c'est moins que la moyenne du vote des Français au premier tour. Mais ouais, je vois que certains sont extrêmement surpris de ce chiffre. Voilà, ça, c'est un chiffre qui est mis en avant par le CEVIPOF et Le Monde. Donc c'est assez carré comme boulot, a priori, vu la source. Et on a 20% des enseignants qui voterait aujourd'hui RN. Voilà, je vois que ça en surprend certains. On va se pencher là-dessus. Hein ? Merci Jimlix, je te lis, et on te lit. Historiquement, Jostache, les profs votent plutôt à gauche, oui, c'est vrai. Pas étonnant, vu comme les enseignants sont abandonnés, dit Caporal San. On va en parler de ça. Donc, l'article du Figaro. Okay, alors, parmi les arguments du vote RN, il y a... Mais eux, on ne les a jamais essayés. Ils n'ont jamais été au pouvoir. Donc, peut-être qu'eux vont savoir faire ce que les autres n'ont pas fait. Alors, l'humanité n'est pas d'accord avec cette affirmation. On n'a jamais essayé, vraiment. Non. Une petite musique montre laquelle... selon laquelle le temps serait venu de donner sa chance au RN au motif qu'il n'a jamais été essayé / expérimenté. Rien n'est plus faux pour l'humanité. Dans les villes comme au Parlement, il pourrit depuis des années la vie de la population. Qu'est-ce qui permet à l'humanité de dire ça? On le verra aussi. L'humanité qui est notamment allée dans les municipalités où le RN est au pouvoir depuis des années et qui dit que c'est pas folichon. Bon, ça c'est... Alors, ça par contre... autant l'argument que j'entends parfois, que je lis parfois, extrêmement réducteur, extrêmement méprisant. Les électeurs du RN, c'est un peu des débats du front, c'est des gens qui n'ont pas fait d'études, etc. C'est un truc qu'on entend beaucoup. Bon, autant ça, il faut totalement supprimer ce genre d'arguments qui sont aussi, qui sont très limités, débiles et puis surtout totalement improductifs, stériles. En revanche, il y a une constante, c'est que dans les candidats du RN aujourd'hui, du FN aujourd'hui, dans l'histoire politique de notre pays, dans les candidats de cette mouvance d'extrême droite, t'as quand même des champions, quoi. T'as quand même des champions. Hein. Donc là, sur les réseaux sociaux en ce moment, même s'il faut se méfier des réseaux, t'as deux, trois petites interviews de candidats RN. Bon, après, on peut dire que oui, mais c'est des cas isolés et tout. Bon. Alors, c'est aussi des champions au niveau de leurs déclarations, parfois, racistes et antisémites. Ah bah oui. Donc, à un moment, oui, c'est ça, mon ophtalmo est juif, mon dentiste est musulman. Exactement. Voilà. Cette dame, notamment. Mais bah, elle n'est pas la seule. Voilà. Mais au-delà de ça, et plus sérieusement, bah, c'est une constante depuis toujours, depuis la naissance du FN, transformé en RN. Bah, régulièrement, ce sont quand même des élus. Hein, qui se signale par des propos racistes, antisémites, des dérapages intolérables. Voilà. Donc ça, on peut faire ce qu'on veut avec ça, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. On ne peut pas nier. Ça existe depuis toujours et ça continue. Donc ça, c'est un argument qui pèse un peu et qui fait un peu de mal au discours. Le RN, ça n'est plus le FN. Le RN, ça a changé. Arrête, Samuel, de parler d'un parti d'extrême droite où il y a certains des élus, des électeurs sont racistes et antisémites. Ça n'est plus vrai. Bon, bah là, les gars, à un moment, cet argument, il tient plus la route parce que c'est une constante. C'est une constante. Encore aujourd'hui, vous avez des candidats de ce parti qui se signalent quand même par des dingueries. Hein, bon. Et l'un des arguments pour dire à quelqu'un qu'apporte sa voix. Mais non, mon chouchou, Corade. Stéréotypé avec un Y, s'il te plaît. Le RN, comme tu le fais, c'est de la propagande IFI. L'IFI, enfin, la France Insoumise, tu veux dire, je pense. C'est pas IFI de génie. Non, chouchou, ça c'est factuel. C'est-à-dire que le fait que des candidats RN aujourd'hui, FN hier, tiennent des propos antisémites et racistes, hein, notamment aux élections locales, bon, bah, ça c'est juste factuel. C'est juste factuel. C'est le seul parti qui le fait. Hein. Voilà, c'est juste des faits. On est dans l'analyse, on est dans une simple analyse, quoi. Déclaration et condamnation régulièrement. Voilà. Donc non, c'est pas une analyse la France insoumise. Ça. Voilà. Après, on peut parler aussi de, attention les mots, hein, du côté de la France insoumise, parce que là aussi, il y a un débat très important à avoir chez certains. Élus la France insoumise, des déclarations extrêmement limites sur Israël, sur les Juifs, qui sous couvert de lutte contre l'État d'Israël et de lutte sur le sionisme, sont à la limite ou dedans même de l'antisémitisme. Et le nier, c'est aussi se mettre, faire l'autruche et se mettre la tête dans le sable, quoi. Donc là, je parle d'une partie des élus LFI. Ça y est, je savais que j'allais en fâcher certains. Mais comment ça, lesquels? Vous voulez qu'on passe une heure à les chercher et à vous les montrer? Vous avez Google comme moi, vous allez trouver en deux secondes. Non? J'ai bien dit, alors on me demande des déclarations antisémites. Je dis bien des déclarations qui, sous couvert d'antisionisme et de lutte contre l'État d'Israël, confinent à l'antisémitisme. Voilà. Tout est dans la nuance. Hein. C'est marrant parce que j'arrive à fâcher tout le monde, moi, ici. C'est ça qui est top. J'adore. Parce que j'arrive à fâcher les électeurs du RN, puis j'arrive à fâcher les électeurs LFI. Bah oui. Mais dire que tout. Qu'un camp est tout blanc et dans l'infinie variété de ses membres et de ses représentants, il n'y a que des saints qui ne dérapent pas, qui ne disent pas d'énormes conneries, ben c'est totalement contre-productif. Vous vous rendez compte que quand vous faites ça, je parle des militants ici ou des soutiens de tel ou tel parti, quand vous tenez ces propos-là, quand vous voulez refuser de voir la vérité, quand vous voulez refuser de voir qu'il y a des soucis dans ces partis, eh ben en fait, vous ne vous rendez pas service. Parce que vous ne donnez pas envie, finalement, qu'on vous écoute, hein, qu'on écoute vos arguments. Donc il faut savoir aussi reconnaître que dans son propre camp, il y a quand même des énormités, quoi. Voilà. Un peu de nuance, quoi. Voilà. Et puis si je fâche tout le monde, j'en ai rien à foutre. C'est comme ça. Voilà. Non, c'est pas vrai. Il y a Valou qui dit, oui, mais c'est pas ce que tu as dit, tu parles de propos antisémites. Exemple, donc, je parle de propos qui, sous couvert. Vous savez parler français ou pas? Je parle de propos qui, sous couvert de lutte contre le sionisme et de lutte contre l'État d'Israël, confinent à l'antisémitisme. Vous savez parler français? Voilà. Hein, c'est parce que le diable se cache dans les détails. Hein. C'est comme une candidate RN qui parade avec une campagne du Troisième Reich et qui va expliquer que c'est pour rigoler. Hein? Que c'est pour un déguisement, pour une teuf, quoi. Voilà. Ben, il faut savoir décrypter un petit peu. À un moment, il faut faire un effort. Hein, tout le monde sait parler français. Voilà. Et c'est documenté, tout ça. Et c'est documenté. Et je parle de comportement minoritaire. Et je parle de comportement minoritaire. Voilà. Et d'individus qui ne sont pas la majorité de ce parti. Mais si vous voulez nier ça, vous faites l'autruche. Voilà.
M'en fous de fâcher tous les camps, j'en ai rien à foutre. À un moment, il faut être un petit peu rationnel dans l'approche de l'actualité.
je ne dis pas, je ne mets pas un signe égal entre les deux. Hein. Je ne mets pas un signe égal entre les deux. Attention. Hein. Par exemple, quelqu'un me fait remarquer que du côté des reproches qui étaient faits à certains responsables et les filles, il n'y avait pas eu de condamnation. C'est vrai, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait eu de poursuites judiciaires et de condamnation pour des propos antisémites d'élus LFI, par exemple. Donc je ne mets pas un signe égal entre ces deux choses. Mais il faut les dire, il faut les constater. Et je ne parle pas du parti dans son intégralité. Hein ? Je parle d'individus. Hein ? Mais il faut le reconnaître. Sinon, vous affaiblissez votre propre camp en ne le reconnaissant pas. OK ? Let's go. Alors, vous avez le droit aussi d'être d'un autre avis et je peux aussi me tromper dans mon analyse, mais c'est la mienne. Voilà. Merci beaucoup, Tranquille TV, pour le soutien. Continue. Non, on est dans un sommaire, je fais un débat. Putain, c'est plus un sommaire. OK. La Croix est allé à la rencontre de Français inquiets. De ces Français issus de l'immigration, inquiets de l'éventuelle victoire du RN dimanche prochain. Donc c'est bien beau de donner la parole aux électeurs du RN, de donner la parole aux électeurs de LFI. Mais à un moment, peut-être qu'on peut donner la parole aussi aux Français d'origine immigrée, qui sont extrêmement inquiets. Ils ont tout à craindre de l'arrivée du RN. Voilà. Tous font part de leur crainte du programme du parti et ça c'est très important, de la libération de la parole raciste. Moi je pense que c'est un truc dont on ne parle pas assez. Alors, si demain le RN arrive au pouvoir, effectivement, eh bien, il faudra surveiller de près quelles seront les décisions prises par ce parti vis-à-vis des Français d'origine immigrée ou des étrangers en France, voilà, et notamment voir si tout ça est bien légal et constitutionnel. Alors, je pense que ça va être très intéressant à suivre. Mais il y a autre chose qui est très inquiet aussi. Voilà. C'est la libération de la parole raciste. Elle est déjà là. Elle est déjà là. C'est-à-dire que les Français d'origine immigrée sont très nombreux actuellement dans leur quotidien à constater d'une libération de la parole raciste, hein, d'une violence aujourd'hui verbale, demain peut-être physique, parce que voilà, ça y est. Et là, on parle des bas du front. Là, on parle des très bas du front. Hein, des gens qui, parce que le parti dans lequel ils se retrouvent est en train de devenir le premier parti de France et est sur le point d'arriver au pouvoir, eh bien, se sentent tout permis. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Voilà. Ça, c'est un truc qu'il va falloir surveiller de très, 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 très près. Voilà. Donc, la Croix se penche là-dessus. Merci, la Croix. GG pour le travail. Voilà. L'humanité se penche sur les immigrés. Pas de République sans eux. C'est encore autre chose. Le projet du RN de mise au ban des personnes d'origine étrangère repose sur des mensonges. On va rappeler que le centre du projet du RN... Je le rappelle aux électeurs du RN, quand même, le centre du projet du RN, c'est l'immigration. Hein, pour ceux qui disent « Ah oui, mais moi je vote pour le RN parce que je ne suis pas content » ou « Pour envoyer un message » ou « Parce que je pense qu'ils vont plus s'occuper des petites gens ». Ok, dites ce que vous voulez les gars. Mais le centre du programme de ce parti, c'est la question de l'immigration. Ouais. Et ce que dit l'humanité, c'est plusieurs choses, c'est que le programme de rupture d'égalité des droits du RN menace les fondements de notre société. Ouais. Et je suis d'accord avec ça. Mais aussi que beaucoup des affirmations du RN sur la question de l'immigration sont des erreurs. En fait, des mensonges. Enfin, vous me dites ce que vous voulez. L'un ou deux, ou les deux. Immigration, 5 mensonges de Jordan Bardella. À longueur d'antenne et souvent sans contradiction, le RN abreuve les citoyens de fausses informations qui stigmatisent les immigrés et leur font porter la responsabilité des maux de notre société. Passage au crible des affirmations sans fondement du chef du parti extrême droite. Bon, je viens de fâcher certains électeurs LFI il y a 5 minutes. Bon, maintenant, je vais me prendre ceux du RN. On aime bien ça ici. On aime bien ça. Parlons du fond, parce que c'est ça qui est intéressant. Les programmes économiques, c'est un petit peu important l'économie, les programmes économiques des deux camps qui sont en capacité d'accéder au pouvoir, la gauche et le Rassemblement national, sont très critiqués de part et d'autres. Deux économistes de d'avis différents se penchent sur les deux programmes. Voilà. Et donc là, on a justement un débat assez apaisé entre deux économistes qui ne sont absolument pas d'accord, mais qui arrivent à en parler de façon assez apaisée, un peu comme ici d'ailleurs, puisque on fait un peu théâtre, mais globalement, on arrive quand même à échanger quoi, sur tous ces sujets. Donc là, on verra le regard de ces deux économistes sur les programmes économiques de la gauche et du RN. Hop, un petit peu de fond. Et on finira par un petit bonheur. Et puis là, j'aurais besoin de votre éclairage, parce que je ne suis pas bien au courant de ce projet. L'Arabie Saoudite, qui lance aujourd'hui sa Ligue des champions de l'e-sport. Organisée à Riyad, ce tournoi international d'e-sport réunit aujourd'hui les meilleurs clubs mondiaux. Il y a notamment chez les Français la K-Corp et Vitality, qui vont s'affronter sur une vingtaine de franchises d'un de jeux. Parmi les plus populaires de l'e-sport, League of Legends, Dota 2, Counter-Strike, Rainbow Six, Siege, etc. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, mais moi, je n'avais pas vu beaucoup de papiers là-dessus. Ça me dit vaguement un truc. Donc, je vous lirai l'article des Échos, parce qu'il y a une page entière là-dessus, et vous me direz votre avis. Il n'y a pas de Gentlemates, non. Il n'y a que la K-Corp et Vitality. Je ne sais pas comment le processus de sélection s'est fait, d'ailleurs. Voilà. Je vois du pas vraiment ouf. Je vois gros cash prize. Je vois compète rincée à l'argent. Je vois cash price ahurissant. Je vois la moulaga va pleuvoir à Riyad. Ok. Ouais. Event un peu douteux d'Hard Rock Gamer. Intéressant. Ah, on me dit que Gentleman n'a pas voulu y aller. C'est ce que me dit Yann. On vérifiera cette info qui est extrêmement intéressante. C'est dans les Échos. Salazar, c'est un journal qui s'intéresse beaucoup aux jeux vidéo et à l'e-sport. C'est pas une Champions League s'ils n'invitent pas les meilleurs, mais les plus connus, me dit Ramez. Okay. J'ai cru comprendre qu'il y avait des sous à prendre. Hein. Ouais. Alors on me dit que pour Gentleman, c'est faux. @neo et Vuvuz, ils n'ont pas été invités. Ah, vous voyez, hein, ça se vérifie les infos. Hein. Voilà. Et l'UAP 235 affirme. Il a raison, d'autres messes n'ont pas voulu y aller. Vous voyez ? Bon, bah nous, on ira essayer de trouver une info là-dessus. C'est très intéressant. Là, j'ai plusieurs viewers qui ne sont pas d'accord, hein, sur cette analyse de Gentlemates. Voilà. Ok. Bon, on essaiera de trouver la vérification de cette info. Voilà pour le petit sommaire. Alors, ceux qui n'ont pas 2-3 heures à me consacrer, eh bien, vous avez juste l'essentiel de l'actualité. C'est bien, on a déjà réussi à foutre le feu au chat juste pendant le sommaire. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite ? Vous êtes pas. Oh, Clément Poitou, il n'est pas prêt. Bon, la pomme de terre est prête. Hé, hey, le chat, j'ai pété. Ok, salut mes champignons, ça va ? C'était un comment ? C'était un silencieux odorant ou c'était un sonore mais pas toxique ? Est-ce que tu peux me donner des infos ? Parce que ça nous intéresse. S'il te plaît. Let's go, on y va ? Bon courage, il y a l'électricité dans l'air, me dit Otagno. Oh, tu sais, on est habitué ici. Ça fait 4 ans qu'on lit... les journaux ici, qu'on parle d'actualité, dans l'actualité, il y a des sujets sensibles, il y a des sujets qui du coup requièrent des analyses et du coup des prises de position. Et parfois, on n'est pas d'accord entre nous. Et on arrive à en parler ensemble, c'est ça qui est cool. C'est déjà bien, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Allez, let's go. Question extrêmement importante. 4 ans déjà. Combien de désistements ? Ouais, 4 ans déjà. 4 ans de stream. Eh ouais, c'est pour ça que j'ai cette tête. Voilà. Ne streamez pas. Regardez le résultat. Combien de désistements pour faire barrage au Rassemblement National ? On le sait depuis hier soir 18h, puisque hier soir, mardi soir 18h, c'était la limite pour déposer bien sa candidature pour le second tour des législatives. Les clés du match, c'est la une des Échos ce matin, près de 220 désistements, voici le chiffre, hein, pour faire barrage au RN. Selon un décompte des Échos, sur les 218 désistements répertoriés mardi, 130 sont des candidats de gauche et 81 du camp Macron. Donc 218, 220, 221, bon, on est dans ces eaux-là. Désistements, donc répertoriés mardi soir, 18h. 130 viennent de candidats de gauche, donc les désistements viennent surtout des candidats de gauche. 81 du camp Macron. Voilà. Donc c'est moins important, mais c'est important. Quelqu'un me dit, est-ce que LR a joué le jeu ? Non, Gabriel, non. Ouais. LR, non, ils ne sont pas dans le désistement. Hein. La ligne LR, c'est Nini. Kif kif bourrico. Hein? Ouais. Non, on va pas. Non. Gauche ou RN, non. Non, c'est pareil, c'est pas bien. Donc non. Ça, c'est là, c'est LR, ça. Xino FR dit, c'est démocratique de faire ça. C'est quoi ce nouveau débat là? C'est quoi ce. C'est un truc que vous avez lu sur Twitter hier ou quoi? C'est la première fois en 4 ans que j'entends des gens dire mais c'est démocratique ça, la désistement. Ça existe depuis la nuit des temps. Et là, c'est quoi? C'est une nouvelle mode sur Twitter? C'est parti. C'est une nouvelle trend sur TikTok? C'est quoi cette histoire du c'est pas démocratique? C'est quoi l'argument? Ça m'intéresse. Ah! Moi, j'avais pas la ref. Il y a Ray qui me dit que c'est une ancienne classique des supporters RN, désistement égale déni de démocratie. Ah bon? Ça s'appelle le seum, dit Yo-Yo-Man. En quoi c'est pas démocratique le désistement? Erzilet pense que c'est un élément de langage RN. Ah bah oui, alors je l'ai pas alors celui-là. Certains médias relaient cette affirmation. Ah ok, tout c'est clair. Ok. Alors je récapépète, je viens de comprendre. Ok, donc laissez-moi deviner. C'est CNews? C'est Europe 1? C'est le journal du dimanche, c'est ça? Ils ont utilisé ces éléments de langage ces derniers jours, c'est ça? Et du coup, c'est un peu parti sur les réseaux et vous avez lu ça et du coup, vous vous posez la question? C'est ça? Parce que moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Hein. Le désistement ne serait pas démocratique. C'est la première fois. Je vous lis. Hein. Bah non, c'est des alliances politiques, il y en a toujours eu, enfin toujours. Voilà. Et quelqu'un me dit, ah oui, mais c'est pas respecter le vote du peuple, c'est pas proportionnel. Bah dans les régimes parlementaires, avec la proportionnelle, en général, ce qui se passe, c'est que comme il n'y a pas de scrutin majoritaire avec une prime au camp vainqueur, bah après il y a des alliances entre partis qui ne sont pas toujours prévues par les électeurs. Pouf, personne ne dit que c'est pas démocratique. Ouais. Bon, les politiques ont le droit de faire alliance, des alliances positives pour faire des trucs ensemble ou négatives pour barrer la route à un parti qui est encore plus éloigné de leurs valeurs que le parti avec qui ils font alliance. Donc voilà. Ben, à mon avis, ça, c'est quoi? C'est un truc qui a été un petit peu. C'est certains médias. Un peu de la galaxie Bolloré qui doit parler de ça depuis quelques jours, non? Hein, je pense. Parce que c'est un peu nouveau, ça, c'est marrant, ces arguments. C'est un truc qui pop depuis hier, ça. T'es venu d'où? J'ai rien ça ou c'est venu moi? Parce que c'est une trend, hein. C'est nouveau. Hein. Journal de France de hier, ils ont montré le témoignage d'une candidate RN qui disait ah, oui, bah, c'est mon langage de l'extrême droite. Ok, d'accord. Oui. Mais j'étais trouvé ça intéressant de voir ça pop dans le chat parce que c'est assez nouveau. Ok. Ok. Donc le désistement ne serait pas démocratique. Ok. Bah non, c'est démocratique. Voilà. On continue donc. Qui se maintient, qui se désiste? Les candidats qualifiés avaient jusqu'à ce mardi 18h pour confirmer ou non leur candidature au second tour de dimanche prochain. Les oppositions et le camp présidentiel ont analysé à la loupe les 306 circonscriptions. En situation de triangulaire, il y avait même 5 quadrangulaires avec 4 candidats pour empêcher que l'extrême droite n'obtienne la majorité absolue et ce faisant récupère les clés de Matignon. Donc il y avait 306 circonscriptions. Concernés, et il y a quand même 220 désistements qui se font. Donc c'est quand même, on est sur un gros deux tiers, quoi. C'est quand même assez important. C'est pas 100%, mais c'est quand même très important. Jusqu'à hier soir à 18h, les tractations ont battu leur plein depuis pour savoir quel candidat devait se retirer. Selon un décompte des échos, à 18h, quelques 218 candidats qualifiés au second tour se sont désistés. À gauche, 130 des 308 candidats qualifiés au second tour dans une triangulaire se sont qualifiés. Dans le camp Macron, 81 sur 250 arrivés en triangulaire se sont désistés. Au total, il ne reste plus que 97 triangulaires et quadrangulaires sur le territoire. Donc ça, effectivement, ça n'est pas une très bonne nouvelle pour le Rassemblement national, puisque un nombre important de triangulaires au deuxième tour, ça, c'était un avantage pour le parti qui est arrivé en tête. Hein. Quand vous avez trois candidats au deuxième tour, ben celui qui gagne, c'est celui qui arrive en premier, ce n'est pas celui qui a la majorité. Donc si vous avez un candidat RN qui est en tête au premier tour, il y a de fortes chances en cas triangulaire qu'il arrive à nouveau en tête au deuxième tour. Donc moins il y a un triangulaire, moins ça favorise le RN, le parti dominant du moment. Si du côté du nouveau Front populaire, des consignes de désistement ont été clairement formulées en cas de triangulaire avec un candidat RN arrivé en première position, la coalition présidentielle, elle, était plus floue, hein, ça on l'a vu. Hein, c'est-à-dire que le président Macron a lancé un appel au Rassemblement républicain, mais qui n'était pas très très clair. On ne savait pas si ça incluait LFI ou pas. Du côté de Édouard Philippe, c'était extrêmement clair. C'était OK Rassemblement républicain, mais sauf avec LFI, comme ça, ça avait le mérite d'être clair. Gabriel Attal, lui, avait été relativement clair en mode pas une voix pour le Rassemblement national. Donc ça, c'était du côté de l'ancienne majorité. C'est une position un peu floue, en tout cas, différentes positions. Les différentes prises de parole des ténors du camp Macron ont rendu difficile la lecture d'une position commune pour faire barrage à l'extrême droite, écrit Les Échos. Quant aux Républicains, quelqu'un me disait, est-ce que la droite, est-ce que LR a joué le jeu? Bah non, pas du tout. Alors pour le coup, la droite, ils sont extrêmement clairs dans le fait qu'eux, ils ne sont pas sur le barrage républicain. Je parle de la droite LR. La direction du parti a refusé de donner la moindre consigne de vote à ses électeurs, rompant ainsi avec le front républicain défendu en son temps par Jacques Chirac. Le danger qui guette notre pays aujourd'hui, c'est l'extrême gauche, a clairement déclaré François-Xavier Bellamy, président de LR par intérim, faisant sous-entendre un penchant plus important pour un camp dimanche que pour l'autre. Voilà. Donc ça, c'est les désistements. Je vous lis un petit peu sur les désistements et après, on se posera la question avec Le Figaro de savoir, c'est bien beau les appels à désistement, les appels de certains à leurs électeurs de voter pour un autre candidat au deuxième tour, mais est-ce que les électeurs sont sensibles à ces arguments, est-ce qu'ils vont les écouter? Ça, c'est encore autre chose. Merci Kruger, 971, merci beaucoup pour le soutien. Merci à toi. Je vous lis. Bonjour Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour Estelle et Clément. Il y a un petit chat dans le jardin qui se balade, c'est là le territoire des chats. Ici, il y a plein de chats en liberté, là, dans ce petit quartier de Corse. Là. Ils vivent leur vie, c'est trop mignon. Les habitants leur ont construit des cabanes, leur donnent de la nourriture. Là, il est en train de guetter. Il est tout petit, il est tout menu, mais il est en train de guetter un oiseau quand même, le couillon là. Enfin. C'est... Oh là là, il est en train. Il veut nous choper un petit oiseau là. Ils sont gentils les chats, mais c'est comme des tueurs. Hein. Je te vois, hein. Je te vois, toi. Je continue. Je vous lis. Salut Polydor, ça va? Ouais, il est gris, c'est le même que la dernière fois. Un petit gris. Je vous lis. Oui, bonne question de Truitosaure. Autant j'ai balayé l'argument de comme quoi le désistement ne serait pas démocratique, autant la question de Truitosaure, elle est intéressante. J'ai une question à propos du désistement. Est-ce que ça ne participe pas à renforcer le vote RN au fil des élections? Ouais. Si, c'est une question. C'est-à-dire que ce front républicain qui existe depuis longtemps, hein, qui est de moins en moins fort d'ailleurs, ouais. Chez certains électeurs RN, il produit ce sentiment que sont des pestiférés, que tout le monde s'unit contre eux et renforce peut-être le vote d'adhésion au RN, quoi. Donc, avec en gros le sentiment qu'ils ont toute la classe politique contre eux, quoi. Donc, oui, peut-être. C'est peut-être. Mais comme le dit sur Jekyll Citron, si lutter c'est contre-productif, on ne fait plus rien. C'est-à-dire que, imagine, bon, si les gens qui sont pour le Front républicain disaient, bon, on va arrêter le Front républicain parce que finalement, ça fâche encore un peu plus les électeurs du RN. Mais du coup, arrêter le Front républicain, c'est laisser le RN arriver au pouvoir. Donc, la politique, hein, c'est parfois choisir le moindre mal. Ah non, c'est pourri là, le temps, c'est pourri. Hein? Comme le dit Morissette, on bouche les trous avec le scotch, mais bon, on n'a que ça. De rien, Trutosaur. Question maintenant. Donc il y a des désistements. Donc il y a des politiques qui disent à leurs électeurs, bon ben, moi je vous appelle à voter contre le Rassemblement national. Est-ce que les électeurs vont entendre cet appel? Est-ce qu'ils vont le suivre? Question du Figaro ce matin en sa une. Les électeurs appliqueront-ils les consignes de vote contre le RN? Plus de 210 candidats de gauche et du camp macroniste qualifiés sont donc désistés pour faire barrage au parti de Jordan Bardella. Mais les reports de voix ne sont pas automatiques. La pression du Front républicain a fait son œuvre, donc écrit le Figaro, plus de 210 candidats qualifiés pour le second tour des législatives ont annoncé leur désistement mardi soir, majoritairement issus du nouveau Front populaire ou du camp macroniste. Ils étaient pour la plupart arrivés en troisième position, dans une circonscription où le RN était en tête au premier tour. Hein. Objectif des états-majors politiques, réduire le nombre de triangulaires et limiter les chances du parti nationaliste d'obtenir une majorité absolue dimanche soir. C'est intéressant d'ailleurs parce que le Figaro, qui s'est fait remarquer ces derniers jours par des éditos pour dire les choses, on en a déjà parlé, assez permissifs par rapport au RN. Je ne parle pas de l'intégralité du contenu du Figaro, mais du contenu de certains éditos du Figaro avec des contenus très RN compatibles, pour dire les choses. J'en parlais pas plus tard qu'hier au téléphone avec quelqu'un qui connaît très très bien la presse française et qui me dit qu'au sein du Figaro, il y a des débats extrêmement tendu au sein de la rédaction sur ce sujet, avec des journalistes qui ne sont absolument pas d'accord avec ce type d'édito. Voilà. Donc vous avez des débats extrêmement intéressants. Et donc là, je vois par exemple le Figaro parle de parti nationaliste, hein, alors que un journal comme Libération parlera clairement d'un parti d'extrême droite. Vous voyez, c'est le dans les détails, vous pouvez voir des choses intéressantes. Reste à savoir si les consignes de vote décidées par les appareils politiques seront suivies par les électeurs. Notamment dans les configurations parfois baroques, à l'instar des retraits de candidats LFI en faveur d'Elisabeth Borne ou de Gérald Darmanin. Voilà. Mystérieuse, dit comme le Parisien qui parle que de la gauche. Ok, bon, t'as jamais lu le Parisien, c'est pas grave. À un moment, je veux bien faire des efforts avec certains arguments du chat, mais quand y a zéro vérité dans le message, je ne fais plus d'efforts. Quelqu'un qui me dit comme le Parisien qui ne parle que de la gauche. Tu ne lis pas le Parisien, donc. Ok. Moi, tous les jours. Après la vague de désistement, le Front républicain à l'épreuve des urnes, c'est un article du Figaro. Derrière les tractations d'appareil, une inconnue hante désormais tous les états-majors. Leurs électeurs suivront-ils les consignes dans les urnes le 7 juillet? Moi, je trouve bien que les électeurs suivent pas les consignes des partis. Bah, c'est aussi un signe de maturité politique, d'une indépendance aussi, hein, de se faire son propre avis. Je trouve ça plutôt sain. Vous voyez ce que je parle pas du Front républicain là. Que les citoyens n'obéissent pas aveuglément aux consignes des partis, en vrai, c'est plutôt sain. Voilà. Je parle pas du Front républicain, d'une façon générale. Les consignes de vote donnent des repères, mais leurs effets sont très faibles. Hein, c'est davantage symbolique que productif, explique par exemple un directeur d'études dans un institut de sondage qui s'appelle Pierre-Adrien Bartoli. À propos de sondage, justement, un sondage pour le Figaro, réalisé quelques jours avant le premier tour, disait que plus la moitié des Français prévoyaient de ne pas tenir compte des recommandations des forces politiques pour le second tour. Bon, il y a beaucoup de gens qui se moquent du message tout à l'heure dans le chat sur le Parisien et qui parlent du Parisien, le fameux journal de gauche. Hein. Je continue. Le camp présidentiel, comme la gauche, mise pourtant sur la réactivation d'un front républicain pour barrer la route du pouvoir au bloc nationaliste, hein, toujours pas bloc d'extrême droite, un hein, nationaliste. On est dans le Figaro? Ah bah oui, c'est ça, dans le Figaro. Ouais, salut. Il y a un débat au Figaro en ce moment. Pour cela, il faut une menace identifiée, sauf que l'idée selon laquelle le RN constitue un risque pour la République et la démocratie est en train de disparaître. Je relis cette phrase doucement. Pour cela, il faut une menace identifiée pour activer le front républicain, sauf que l'idée selon laquelle le RN constitue un risque pour la République et la démocratie est en train de disparaître. Qui dit ça ? Stewart Shaw, directeur d'études chez Verian, donc c'est un spécialiste des sondages, avant il était ailleurs. Le dilemme traverse surtout les électeurs centristes suspendus à un duel entre le RN et LFI dans de nombreuses circonscriptions. Certains responsables ont tellement diabolisé l'extrême gauche que dans la hiérarchie des périls, il est compliqué de demander aux électeurs de voter pour les moins pires, c'est-à-dire à leurs yeux, le nouveau Front populaire, explique le politologue. Quand vous avez, pour ne parler que de Renaissance, du parti présidentiel, quand vous avez pendant des mois, notamment pendant la campagne des européennes et puis dans la campagne des législatives premier tour, des responsables de Renaissance qui parlent de l'extrême gauche en parlant du Front populaire et pas seulement de LFI. Allez voir les propos du président Macron. Quand il parle des deux blocs extrême droite et extrême gauche, il ne précise pas LFI. Et il semble dire que le nouveau Front populaire, c'est l'extrême gauche. Allez voir les propos du président Macron. Voilà. Quand certains responsables de Renaissance donc diabolisent le nouveau Front populaire en utilisant ce terme et en disant que ce serait une catastrophe pour le pays. Quand ces mêmes personnes, avant le deuxième tour, appellent à voter pour le NFP face au RN, bah, les électeurs ils disent « Ah bah oui, mais tu dis... » Mais non, mais la semaine dernière, non, mais tu disais que c'était mal. Ah oui, mais c'était la semaine dernière, ça. Ah oui, mais compliqué. Compliqué. Voilà. C'est petit le Figaro. Voilà. Donc les électeurs qui disent, bah oui, mais il faut savoir. Bah oui. Bah oui, c'est faire de la politique, c'est bien, mais parfois, il faut faire attention à ce qu'on dit, quoi. Tiens, on va aller voir le fameux journal de gauchiste, Le Parisien, dont parlait quelqu'un dans le chat, là. On l'a beaucoup roulé là-dessus. Voilà. Personne disait oui. Ce journal qui ne donne la parole qu'à la gauche. La une du Parisien ce matin, c'est plongé dans la France qui vote RN. Quel kiff. Allez, je vous lis. T'avais dit qu'on mangerait des knackis. Bah ouais, exactement. Ouais. Pff, des politiques qui changent d'avis, mec. J'en aurai quel enfer, c'est fou ça. Je l'ai pas vu cette enquête du Monde sur la surprésentation de la droite. J'ai la dalle, ça m'intéresse, ouais, j'irai la lire. Je suis en train de vous lire, hein. C'est mon plaisir. Je vous lis. Je suis concentré comme dans une game de Valo là. Là j'ai pris ma ligne là, j'attends que la petite tête elle sorte, paf. Le vrai Gab, salut Sam. Déjà, un message qui commence par salut, c'est cool. J'avais cru lire que le Conseil d'État avait placé LFI dans la gauche traditionnelle, pas l'extrême gauche. Peux-tu nous en parler si tu es au courant? Et dans ce cas, pourquoi personne ne contredit les forces de droite qui qualifient LFI comme extrême? Très bonne question. Le Conseil d'État a dit que le RN, d'abord, était bien d'extrême droite. Bon, ce qui met très en colère Marine Le Pen et consorts, qui, depuis des années, se bat pour qu'on arrête de dire que le RN... Le Conseil d'État, institution officielle française, a dit « bah si, le RN c'est d'extrême droite quand même ». Ok. Le même Conseil d'État a dit que LFI, c'était pas l'extrême gauche. Voilà. Donc oui, vous pouvez vous en référer au Conseil d'État. Ou pas. Je m'explique. Quand vous échangez avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous sur le sujet, par exemple quelqu'un qui dit que vous êtes au café, avec un pote, un vieux pote, vous l'avez pas vu depuis longtemps, ok? Ah, je t'explique le ou pas, Eliana, attends un peu, Eliana, t'es au café, avec un pote, tu l'as pas vu depuis longtemps. Le pote te dit, mais je ne suis pas d'accord, moi. Tu dis que le RN, c'est d'extrême droite. Moi, je dis que le RN n'est pas l'extrême droite. Et là, tu lui sors l'argument atomique. T'es au café, avec ton vieux pote et nana. Tu lui dis, ah ouais, mais ce que tu sais pas, c'est que le Conseil d'État, il a dit que le RN était d'extrême droite. Hein ? Alors ? Et là, le mec te dit, bah, je m'en bats les couilles. Conseil d'État, c'est juste une institution officielle qui émet un avis à un moment, qui a un avis politique, une analyse, ouais, qui peut être juste ou erronée. Et ce n'est pas ton vieux pote. Hein, qui va contre Kems, il va dire contre Kems, je m'en bats les couilles. C'est ton vieux pote, il va dire ah bah oui, excuse-moi, j'avais pas vu que le Conseil d'État avait dit que le RN était très droite. Non. Il faut que tu nourrisses de vrais arguments. Il faut avoir l'histoire du parti, les déclarations racistes et antisémites de certains élus, les propositions de loi qui ont été déposées à l'Assemblée, les discriminations entre les citoyens. Voilà, ton vieux pote qui vote RN, tu peux lui parler de tout ça, mais l'argument du Conseil d'État, si tu t'arrêtes là, en fait, ça va convaincre personne. Idem pour LFI, hein, puisque c'était la question. Hein. Ton vieux pote qui vote, je sais pas quoi, et qui t'affirme que LFI est d'extrême gauche, et si tu lui dis, bah non, t'as tort, le Conseil d'État a dit que c'était pas d'extrême gauche, bah, c'est pareil, c'est aucun intérêt, ça va absolument pas le convaincre. Par contre, tu peux peut-être aller voir les arguments du Conseil d'État que le Conseil d'État a utilisé pour dire ça. Bon, je ne réponds pas à toutes vos questions, mais elles sont toutes pertinentes. Bon, lisons ce dangereux journal gauchiste dont nous parlait quelqu'un dans le chat tout à l'heure. Oh, Solal, j'ai un de mes deux petits garçons qui vient. Je cache. Où est mon chéri ?
Maman, où est ma voix ? On va acheter des filles nature.
Tu vas acheter des filles nature ?
Oui, pour moi et ma voix. Mais deux pour moi, un pour ma
voix. Bah oui, parce que Malo, il en a déjà un. Donc toi, tu en auras deux comme ça ? Et des finatures quoi ? Les animaux ?
Oui.
Oh, ça fait... On pourra jouer ensemble ?
Oui.
Oh, j'adore ce jeu. Des finatures, c'est trop bien. Vous allez où ? Des chaussures aussi ? Et des définatures aussi ? Trop bien. On pourra jouer cet après-midi, tous les deux ?
Oui.
À des finatures ? Moi, je suis trop
après
content.
Après les courses.
Après les courses ?
Oui.
Ok, je te donne un bisou. Je t'aime. Talent ma puce. Il est content. Il est trop content. Trop chou. Défi nature, c'est un jeu de cartes. C'est trop mignon. C'est un jeu de cartes. J'ai découvert ça cet été là. C'est un jeu de cartes. Ça peut être des animaux, ça peut être des animaux mythiques aussi. Malo, il a avec des animaux mythiques avec genre le Yeti, le Phénix, des trucs comme ça. Et en fait, ils ont des caractéristiques de taille, de puissance, de date d'apparition, je sais plus quoi. Et donc tu fais des batailles. Non, pas des filles matures, des filles nature. Ah, pas des filles matures, des filles comme un défi nature. Voilà, c'est pas un jeu de cartes avec des filles nature dessus. Voilà. Et donc voilà, on joue à ça. Voilà. Et donc ils vont en acheter d'autres là. On était où ? Hop, c'est parti. Oui, c'est pas le même jeu. Ouais. Merci Weird Bubu, merci pour le Prime. Merci Ice Rocket 79 pour le Prime. Merci encore Kruger. Voilà. Des figues nature. Non, mais il est mignon. Soleil, il a un petit cheveu sur la langue et il dit pas bien les R et les S. C'est trop chou. Donc moi, j'arrive à décrypter un petit peu, mais ouais. Mais il est tout petit encore, donc on laisse gérer ça tout seul pour l'instant. Il dit pas trop les R. C'est trop chou. Voilà. Donc faut décrypter. Donc c'est... Je pense qu'il dit pas nature. Ouais, ça va venir, je suis pas trop inquiet. Merci Xintin pour le Prime. Bon, allez, le Parisien. Plongé dans la France qui vote RN. Parce que comme je le dis, même si ce ne sont pas mes valeurs et ce ne sera jamais mon vote, je ne pense qu'il ne faut pas mettre de côté, ignorer, insulter les électeurs de ce camp. Il faut échanger avec eux, dialoguer, même si on n'est pas d'accord. C'est ce que permet la démocratie, c'est très important. Sinon... Voilà, on se retrouve dans une France à feu et à sang. Donc il faut tendre l'oreille, écouter, entendre. Et ça ne veut pas dire comprendre, ça ne veut pas dire acquiescer, mais ça veut dire accepter le débat. Voilà. C'est ce que fait le Parisien ici. plongée dans la France qui votait Rennes, Denain dans le Nord, Nice, Alpes-Maritimes, village viticole de la Marne, les reporters du Parisien sont allés à la rencontre des électeurs qui ont placé le RN en tête au premier tour des législatives. Hein, voilà, ne pas les infantiliser, ne pas les débiliser, exactement, exactement, Nitsumi, c'est ça, c'est ce que je dis. Eux, on ne les a jamais essayés, c'est un des arguments qu'on entend dans la bouche des électeurs RN, des électeurs qui sont en colère, des électeurs qui sont inquiets, et des électeurs qui réclament du changement. On commence par Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord, et donc c'est la parole à des électeurs du RN, on va les écouter. Il faut que ça change. Il faut que ça change. J'en ai marre, c'est tout le temps les mêmes, rien ne bouge pour nous, dit cet aide-soignant à la retraite, ancien électeur de gauche. Anita, 76 ans, elle aussi a passé le pont, comme elle le dit. Elle a voté RN pour la première fois dimanche. Hein, le programme porté par Jordan Bardella, elle ne le connaît pas, elle le reconnaît. Pas grave, je veux envoyer un coup de boulet dans le tas. On a tellement été déçus par la gauche et la droite, justifie cette ancienne communiste. Eux, on ne les a jamais essayés. Le fameux argument. Cet argument nourri par des années de déception politique, je répète doucement cette phrase, cet argument nourri par des années de déception politique, hein, et là on commence à se pencher aussi sur les responsabilités de la montée du vote RN, constitue le principal moteur des 10,6 millions d'électeurs du RN ce week-end, donc 10,6 juste pour le RN et jusqu'à 12 hein, si on compte les voix notamment LR, Ciotti, tout ça. D'après une récente enquête Ipsos, tous les profils participent à cette vague bleue marine, jeune. Auparavant, il y a quelques temps, il y avait une spécificité du vote jeune en France qui était... les jeunes votaient moins que les aînés, mais les jeunes votaient plus à gauche que les aînés. Voilà. Et ils votaient surtout beaucoup moins extrême droite. C'est moins vrai aujourd'hui. Hein, les jeunes votent quasiment comme les adultes. Jeunes, retraités. Là aussi, il y a une très forte progression du vote RN chez les retraités. Ouvriers, historiquement, c'est un vote très fort chez les ouvriers. Le FN, c'est là que ça a commencé. Et cadres, et ça, c'est assez nouveau. Le bulletin Bardella devient alors le symbole de le ras-le-bol. Quasiment pas, non. Il y a Wolny qui dit que c'est toujours le cas. Hein. Les jeunes votent toujours plus à gauche aujourd'hui. Quasiment pas, non. C'est quasiment fini. Les jeunes votent quasiment comme les aînés maintenant aujourd'hui. Dans une proportion qui est très très proche de le reste de la population, ce qui est assez nouveau. C'était vrai avant, ça. C'était vrai avant. Hein. Le bulletin Bardella devient le symbole de leur ras-le-bol, au point qu'aux quatre coins du pays, ils l'expriment avec les mêmes mots, ce qui les attire, l'espoir d'un lendemain meilleur. Ce qui les rassemble, le constat d'une France en déclin qu'ils ne reconnaissent plus. À Menton, dans les Alpes-Maritimes, pour les 18-25 ans, c'est vrai. Ouais. Ah, oui, ça dépend de la définition des jeunes. Ah oui, vous avez une définition qui est OK. Oui, pour les 18-25 ans, je crois que le vote le plus important, c'est encore LFI. C'est vrai. Ouais. Alors en fait, c'est si on ajoute les jusqu'à 35 ans. Mais peut-être que vous pensez qu'il faut s'arrêter à 25 ans. OK, peut-être. OK. À Menton, dans les Alpes-Maritimes, un baigneur n'y comprend rien. Pourquoi les gens votent RN NFP, pas LFI, pardon. NFP, bien sûr. Pourquoi les gens votent RN ? Il n'y a même pas d'immigrés ? S'exclame-t-il en montrant les badauds à Longuy sur la plage de Galais. Monique, 65 ans, répond. Voilà. La retraitée raconte l'angoisse des habitants face à la vague de migrants, donc qui n'est pas là, mais qui est de l'autre côté, en Italie, à 11 km de là. Voilà. Elle soupire, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, surtout les gens d'ici. Donc il n'y a pas d'étrangers autour d'elle, mais elle en a peur quand même. Alors certes, les contrôles ont été renforcés à Vintimille, mais Karine, 51 ans, fromagère, au marché s'agace, certains migrants arrivent quand même à passer. Voilà, hein. Ils traversent mon jardin, hein, dit Karine. La frousse se transforme en préjugé, écrit le Parisien. J'ai peur que notre pays devienne islamique. Et parfois en racisme décomplexé. Au café en face de la halle, la violence des mots contraste avec le roucoulement des tourterelles. Attention, accrochez-vous. Tous ces melons, il y a des gens qui parlent comme ça aujourd'hui en France, publiquement, devant des journalistes. Donc, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est une insulte raciste désignant les pays, notamment d'Afrique, les gens d'Afrique du Nord ou avec des origines d'Afrique du Nord. On n'en peut plus. Grimace de dégoût. Michel, le, c'est une femme, 70 ans, en évoquant les migrants. Hein, cette parole décomplexée raciste dont je vous parlais. Voilà. Il n'y a pourtant aucun dans les rues, constate le journaliste, et dit si, je les vois passer. Donc, à un autre moment, quoi. Tranquillement, des femmes ont même des voiles sur la tête, dit Michel. Non, c'est son copain Yves, qui est un ancien boucher. Ils n'ont rien à faire chez nous, ils violent les filles, affirme Edouard, 70 ans, sans preuve, rapporte le Parisien. Il nous prévient aussi, ça vous arrivera à vous aussi, manifestement, c'est une journaliste qui parle, et donc notre ami Edouard dit, attention, ce sera vous. Oh là là, quel enfer. Michel acquiesce. Hein, contraste saisissant, lorsqu'on lui demande si elle, Michel, se sent en insécurité à Menton. Donc, à un moment, on se dit, bon, bah, Michel, elle a un problème avec l'insécurité, avec l'immigration, donc dans son quotidien, elle doit le vivre. Hein, elle doit le vivre, elle doit être, je ne sais pas, gênée, troublée, je ne sais pas. Et alors, la journaliste du Parisien demande à Michel si elle se sent en insécurité à Menton. Elle dit, ah non, pas du tout. Ici, c'est tranquille. Ok, Michel. Plus loin des frontières, les propos s'adoucissent. Mais les électeurs RN toujours réclament plus de sécurité. À Nice, ville pourtant réputée sûre, les habitants se disent sidérés par la montée de la violence. Voilà. Je répète cette phrase qui est géniale. À Nice, ville réputée sûre, les habitants se disent sidérés par la montée de la violence. C'est toujours le fameux ressenti, là. Hein. Mika, 46 ans, électricien, refuse d'intervenir dans certaines cités de non-droit, dit-il. À l'autre bout de la France, maintenant, on remonte, on va dans le Nord. Floriane se grille une cigarette devant son institut de beauté et elle dit, j'arrive le matin, je retrouve des crachats, des mégots, des canettes. Elle est exaspérée, cette commerçante. Plus personne ne respecte rien. Voilà. La commerçante de 40 ans se désole de la dégradation du cadre de vie, hein, de l'explosion des incivilités dues à ses yeux à la population immigrée. Il faut un retour de l'autorité en France, dit-elle. Marine Le Pen à la poigne pour remettre de l'ordre dans les rues. Les rues de Denain, dans le Nord, sont maussades. La commune, autrefois faste et attractive, est considérée comme l'une des plus pauvres aujourd'hui de l'Hexagone. Les commerces baissent les stores les uns après les autres. Le taux de chômage y est 4 fois plus élevé que la moyenne nationale. On est à 32% de chômage, hein, contre 7,5%. Il n'y a plus rien ici. Toutes les usines ont fermé, se désole Raymond. Au RSA, aujourd'hui, Raymond, il éprouve un sentiment d'abandon. Macron passe son temps à faire plaisir aux riches. Le RN, lui, s'intéresse aux petites gens. À entrant de ses électeurs, le parti de Marine Le Pen parlerait mieux que quiconque aux précaires, aux oubliés, à ceux qui survivent depuis trop longtemps. Moi, je crois qu'il faut les entendre, ces mots-là. Il faut entendre les oiseaux aussi. J'ai des oiseaux dans le jardin, je ne sais pas si vous entendez. Mais il faut entendre ces mots-là. À entendre ses électeurs, le parti de Marine Le Pen parlerait mieux que quiconque aux précaires, aux oubliés, à ceux qui survivent depuis trop longtemps. On nous laisse dans notre galère après une vie de travail, pendant que, affirme Jacqueline, 64 ans, les étrangers gagnent presque autant que les Français grâce aux allocs. Aidez-nous avant tout. Voilà. Bon, je m'arrête sur ça. Voici les paroles des lecteurs du RN selon le Parisien dans le Nord et dans le Sud. À vous. Il y a Métui qui dit, mais ces gens-là, au RSA, gagneraient tellement à voter NFP, il n'y a forcément pas qu'une question d'abandon pour choisir la version raciste, nous dis-tu, Métui. Maliwen nous dit, maintenant que la parole s'est tellement libérée, que même si le RN ne passe pas dimanche, cette parole décomplexée restera et ça risque d'être fortement problématique. Sauf que le RN va leur mettre à l'envers et les plus pauvres et précaires vont s'en prendre plein la gueule. C'est ça le plus triste et si médiéval. Est-ce qu'on peut avoir des images de chatons pour commencer, demande Mytho Taureau. Je vous lis. Wally, je suis hyper curieuse de savoir quels auraient été les résultats de cette élection si on avait eu une télé réellement régulée par l'ARCOM. Quelle est la responsabilité des médias, ou plutôt, vous savez que je préfère l'expression de certains médias, dans la situation où nous sommes. Hein, parce qu'il y a Echo Padman, par exemple, qui écrit « Le jour où les médias arrêteront de nous noyer dans des faits divers qui ne font que créer un sentiment d'insécurité, on n'en serait peut-être pas là. » Je pense qu'effectivement, tu as raison, Echo Padman. Il y a sûrement des médias qui noient effectivement leurs téléspectateurs, auditeurs dans les faits divers, comme tu le dis, pour créer un sentiment d'insécurité. Il y a juste un hic dans ce truc-là de la responsabilité des médias. Les gens qui disent les médias. Je rappelle que Le Monde est un média, de même que CNews. Mediapart, c'est un média. Libération, c'est un média. L'Humanité, c'est un média. Ouest France, c'est un média. Il n'y a pas que Facebook, il n'y a pas que CNews, il n'y a pas que C8, il n'y a pas que Anna, il n'y a pas que Europe 1, il n'y a pas que le JDD. Qu'est-ce qui oblige les Français à consommer ces médias? Moi, dans les médias que je consomme, c'est-à-dire la presse écrite quotidienne nationale que je vous vends tous les matins, il n'y a pas du tout cette surexposition des faits divers que vous évoquez. Pas du tout. Il n'y a pas. Qu'est-ce qui oblige les Français à consommer ces médias ou ces faits, ça? Qu'est-ce qui les oblige? Qu'est-ce qui concrètement les assoit devant CNews, quoi, pour dire les choses, hein? Qu'est-ce qui les oblige? Ils sont libres de choisir leurs médias, quoi. Pourquoi ils ne choisissent pas les médias que je lis, moi, par exemple, à un moment. C'est bien beau. Moi, je pense qu'il y a une responsabilité globale, politique, des politiques passées, médiatiques, hein. En allant, pour certains médias, à la course à l'audience et en favorisant des contenus qui créent un sentiment d'insécurité parce que, effectivement, ça va être regardé. Donc, de certains médias, je dis bien pas de certains médias et pas des médias, parce que ces médias-là, moi, je ne les consomme pas. Et à un moment, des citoyens aussi. C'est un moment, arrêtons d'infantiliser les gens. C'est aussi de leur responsabilité. Hein. À un moment, les gens qui s'abrutissent devant des médias sensationnalistes, à un moment, il faut aussi responsabiliser les gens, quoi. Il y a d'autres médias. Il y a des médias de qualité, quoi. Donc, à un moment, c'est aussi se défausser que de dire « Ah, mais il y a quand même des médias problématiques. » Ben oui, bien sûr. Mais qui nous oblige à les regarder, quoi? Et à un moment, il faut responsabiliser les citoyens et les lecteurs, quoi. Ce ne sont pas des enfants, quoi. Arrêtons d'excuser tout. Moi, dans les médias que je consomme et que je fais le choix de consommer, il n'y a pas ça. Donc, à un moment, on ne peut pas tout excuser, quoi. Ce ne sont pas des enfants. Peut-être que je me trompe dans mon analyse, hein, mais je ne comprends pas ça. Merci, Mytho Taureau, pour les bits. Merci, Coben17. Merci, Joafen. Je vous lis, hein, je prends un peu de temps pour vous lire. Merci, Crazy. Très bonne remarque de Cycli et de quelqu'un d'autre qui me dit « Il y a combien de médias gratuits dans ce que tu consommes ?» C'est vrai. Que les journaux que je lis, c'est des journaux payants. C'est vrai que dans les médias dont on parle, ce sont des contenus d'accès gratuit. Hein, vous n'avez pas à payer, sinon en regardant les pubs, c'est pour regarder CNews. Vous n'avez pas à payer, sinon en écoutant les pubs, pour écouter Europe 1. Vous n'avez pas à payer, sinon en regardant les pubs, pour regarder Hanouna, par exemple. C'est vrai, c'est un vrai truc. Alors moi qui ai travaillé pour le secteur privé et le secteur public, j'ai aussi l'impression que les médias du service public, je pense à France Info, la chaîne d'info en continu dans laquelle j'ai travaillé quelques années, France 2, France 3 ne sont pas des médias, pour avoir travaillé presque 17 ans dans le groupe France Télévisions, consacrent un temps important de leur antenne aux faits divers. Bah, j'en suis, c'est même pas que je pense, et j'en suis sûr, je sais, parce que j'ai présenté ces JT en fait. Il faut vous dire que dans les JT de France Info, dans les JT de France 3, j'ai présenté le 12-13 national pendant 5 ans, les faits divers n'étaient pas présents, quoi. Parce qu'on estimait que c'était pas un contenu qui était intéressant. Sauf s'il y avait un sens au niveau de l'évolution de la société. C'est gratuit, ça. C'est additif, les faits divers. Voilà. Responsabilité du téléspectateur, de l'auditeur. À un moment, il faut arrêter d'infantiliser les gens, quoi. Je dors en haut. On est d'accord qu'il y a un haut. Oui, je ne dis pas que certains médias n'ont pas une responsabilité. Je dis à un moment qu'il faut arrêter d'infantiliser les citoyens. Et s'ils veulent consommer des médias de merde, eh ben c'est de leur responsabilité. Bon, pour dire les choses un petit peu, quoi. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le Rassemblement national a prévu de privatiser le service public, voilà, et de faire disparaître les chaînes dont je viens de parler. C'est QFD. Allez, alors, on disait tout à l'heure que le vote RN progressait dans toutes les catégories de la population. Hein, il y a une époque, le vote FN était vraiment localisé aux classes populaires, ouvrières. Ça a commencé comme ça. Et puis, de plus en plus, tous les milieux, agriculteurs, cadres moyens et supérieurs, jeunes, hein, avec des jeunes qui votent moins RN que le reste de la population, mais qui se rapprochent de plus en plus d'un vote qui ressemble à celui des aînés. Et les profs, longtemps un bastion presque totalement hermétique au vote d'extrême droite. Pourquoi les profs sont plus nombreux que jamais à voter RN? Il y a un chiffre dans cet article, ici, du Figaro, mais qui vient d'une étude du journal Le Monde et du CVPOF, qui est le centre d'études de la vie politique en France, de Sciences Po, selon lequel un prof sur cinq voterait aujourd'hui pour le RN. Pourquoi les profs sont plus nombreux que jamais à voter RN? C'est quand même assez incroyable, assez surprenant. Certains étaient très surpris par ce chiffre tout à l'heure. Bastion historique de la gauche, l'éducation nationale n'échappe pas au raz-de-marée électoral de la droite nationaliste. Voilà. Comme ça, c'est pour répondre aussi aux arguments de certains qui veulent absolument, dans une forme de mépris de classe, dire que les électeurs du RN, c'est des gens qui ne sont pas éduqués, qui n'ont pas fait d'études, etc. 20% des profs aujourd'hui voteraient Rassemblement National. Voilà. Lisons. Professeur de philosophie, qui s'appelle Louis, il dit au Figaro, disons qu'il y a quelques années, si j'avais assumé vouloir voter pour le RN, mes collègues ou supérieurs auraient cherché à me faire tomber. Aujourd'hui, je reste encore discret à ce sujet, mais je peux me dire proche de ces idées sans risquer mon poste. Une enquête menée par Ipsos en partenariat avec le CVPOF de Sciences Po et Le Monde indique qu'un enseignant sur 5, donc 20%, avait l'intention de voter pour le RN au premier tour des législatives. 6 fois plus qu'en 2012, où seuls 3% des professeurs assuraient se diriger vers la droite nationaliste. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On est passé de 3% en 2012 à 20% aujourd'hui. Il faut s'interroger là-dessus. Hein? Comment expliquer la droitisation de ce bastion historique de la gauche, se demande le journal. C'est l'historien de l'éducation Claude Lelièvre qui se penche là-dessus. Et lui, il explique que c'est surtout en 2017. En 2017, que la percée a été importante. Si on prend de la hauteur, on constate que ce sont surtout des électeurs de droite modérée, donc des profs qui votaient pour la droite républicaine, voilà. Un quart des professeurs à peu près, 25%. Et en fait, ce sont eux qui, a priori, se sont tournés vers le RN. En particulier parce qu'ils estiment que les questions liées à l'autorité n'ont pas été correctement traitées. C'est un condensé de ce qu'on retrouve à l'échelle nationale, résume Philippe, qui est un professeur de sciences économiques et sociales, qui donc va voter RN, il estime que quand on enseigne, on comprend l'importance du respect de l'autorité et de l'ordre. On pense aussi aux professeurs qui font leur travail dans des zones plus sensibles. La droite classique ne répond plus à ces enjeux, la gauche, n'en parlons pas, reste donc le RN. Le Rassemblement national qui a multiplié les propositions sur le thème de l'école durant la campagne des législatives, la fin du collège unique, le renforcement de l'exigence de neutralité des enseignants, les sanctions planchées en conseil de discipline, l'instauration d'un uniforme de la primaire au collège. Merci le chapeau rouge pour le prime. Le respect de la laïcité compte beaucoup dans le choix de ces enseignants qui ont voté pour le RN ces dernières semaines. Beaucoup estiment que la gauche n'en est plus le garant et que seul le parti de Marine Le Pen saura nous protéger. La parole à Fanny pour terminer. Pour cette professeure de français, il est impensable de voter à gauche parce que ce parti a perdu la fierté d'aimer son pays, dit-elle. Moi, j'aime la littérature française, la langue française, j'aime l'histoire de mon pays. Voilà. Parole de prof qui voterait. Merci, tu l'excises pour le prêt. Vous en pensez quoi? Julie. Zerbs dit qu'elle devrait mieux apprendre l'histoire de son pays. Lieutenant Lucas, je pense que les agressions contre les profs jouent beaucoup plus le fait que ce soit beaucoup médiatisé. Alors là, je peux être coupable. Hein. Que les médias parlent des agressions de profs, ça me semble vraiment essentiel. Ainsi, les titulaires d'un des plus beaux métiers du monde, de transmission, d'accompagnement des enfants vers l'éveil de leur intelligence, la culture, si ces enseignants piliers de la République se font agresser, il faut en parler par contre. Je pense que là, c'est la responsabilité des médias d'en parler. Il ne faut pas se voiler les yeux. Il y a quand même les agressions ultra-violentes jusqu'à la mort, hein, Samuel Paty. Des enseignants ces dernières années, c'est quand même un phénomène nouveau. Donc il faut les défendre, ces enseignants. Et donc il faut en parler, il ne faut pas se voiler la face. Donc si quelqu'un veut reprocher aux médias d'avoir parlé de ces agressions parfois ultra-violentes des enseignants, je plaide coupable. Hein. Parce que ces profs, il faut les défendre, hein. Il faut les protéger. Ça fout la trouille, dit Floppy Disc. Les populations historiquement de gauche commencent à voter extrême droite. Julie. Matt dénonce une certaine faillite des hommes et femmes politiques des dernières années qui ont donné l'impression de mépriser les électeurs. Il nous ton message, Matt. Bah, je l'ai. En pensant que rien ne changerait. Il y a Callaghan Murdoch qui nous dit, je pense qu'il est en ces moments important de se rappeler la phrase qu'avait prononcée Balavoine en 1980. Ce que je peux vous dire, c'est pas quand il avait interpellé le candidat Mitterrand à la présidentielle, ça. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur et lorsqu'il est mobilisateur, il est dangereux. Je ne sais pas ce que tu penses de cette phrase, mais je suis assez d'accord avec ses propos. En tout cas, ça fait écho en moi aujourd'hui. J'ai la vingtaine, j'ai sincèrement peur de la tournure que ça prend. Oui, je crois que cette phrase de Balavoine est totalement d'actualité. Maître Coda, je suis atterré, je m'enfonce dans mon fauteuil en lisant tout ça. Même les relais du savoir se laissent approcher par les idées obscures. Ça en dit long sur les mots de notre société. Je vous lis, c'est un sujet important, c'est un sujet vraiment important d'essayer de comprendre pourquoi une partie des profs vote RN aujourd'hui. Furious Teacher, j'ai été prof, on nous jette tellement au charbon avec des classes surchargées et sans nous apprendre à enseigner avec bienveillance et nous donner les bons outils pour la gestion de groupe que finalement ça ne m'étonne pas. Les autres partis auraient dû s'emparer, écrit Sorgren, de ces questions d'insécurité des enseignants qui sont réelles et additionnées à la précarité honteuse du métier. Je suis prof, dit Typo Mastigote. Le problème, c'est le manque de moyens. On est trop peu dans les classes surpeuplées et ça entraîne un climat malsain. C'est la preuve d'un malaise profond dans la société. Il va falloir y remédier. Oui. Moi, je trouve cette actualité là, de la progression du vote RN chez les enseignants importante parce que on voit bien que si le RN est arrivé à ce niveau de popularité, pour dire les choses, hein, d'adhésion hein, dans notre pays, c'est qu'il y a clairement des sujets dont on, collectivement, les partis politiques qui ont été au pouvoir et ont notre société, dont on ne s'est pas occupé, quoi. 20% babos de merde. 20%. Allez, on retourne vers les électeurs du Rassemblement National avec l'humanité cette fois et qui démonte un argument qui est cet argument qu'on entend parfois. Ah ben moi je vais voter pour le RN, on les a jamais essayés, ils peuvent pas faire pire, peut-être qu'ils feront mieux. On n'a jamais essayé vraiment et l'humanité dit c'est faux, on a déjà essayé. Une petite musique monte selon laquelle le temps serait venu donner sa chance au RN au motif qu'il n'a jamais été expérimenté. Hein. Rien n'est plus faux dans les villes comme au Parlement. Il pourrit depuis des années la vie de la population. Qu'est-ce que veut dire l'humanité ? On va lire l'article. La phrase revient dans la bouche de plus en plus de Français comme une fausse évidence. Le RN, on n'a jamais essayé. Comme s'il ne restait comme solution qu'un saut dans l'inconnu afin de régler les problèmes du pays. Et pourtant, ces Français se trompent, dit l'humanité. L'extrême droite, on l'a déjà essayé. Elle est aujourd'hui au pouvoir dans de nombreuses villes en France. Elle empêche déjà des textes de loi progressistes d'être adoptés à Paris ou à Bruxelles. Elle gouverne des pays en Europe. Elle a, dans l'histoire, maintes fois déjà montré son véritable visage. Depuis 2014, le RN gère 10 villes en France. Vont-elles mieux, ces villes ? Donnent-elles envie d'étendre la recette de l'extrême droite à l'ensemble du pays ? Certainement pas. Écrit l'humanité, l'une des premières décisions de Steve Briouat, maire d'Hénin-Beaumont dans le Nord, a été de supprimer les financements de l'antenne locale de la Ligue des droits de l'homme et en plus de l'expulser de ses locaux. À Hayange, en Moselle, Fabien Engelmann a coupé le gaz et l'électricité au Secours populaire français. Syndicats, associations de défense de droits, collectifs de solidarité sont régulièrement visés et taxés de communautaristes par les maires RN. Les subventions municipales leur sont coupées. Les clubs de sport collectifs trinquent aussi au profit de développement de sports de combat. Qui gagnent les citoyens ? Est-ce qu'ils y gagnent de meilleurs services publics ? À Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, Louis Alliot a bloqué l'installation d'un foyer pour l'aide sociale à l'enfance. Le maire RN a aussi privatisé la crèche, il a privatisé le funérarium, il a privatisé la piscine, ce qui a fait augmenter les prix. Partout, les moyens sont alloués à la vidéosurveillance et au renforcement des équipes de police, comme si la sécurité était le seul besoin et la réponse à tout. L'humanité nous dit, bah, les gens qui disent qu'on n'a jamais essayé le RN, bah si, bah, allez voir les villes et allez voir aussi les textes qui ont été votés par les élus RN à l'Assemblée ou les élus d'extrême droite au niveau européen. Le RN est arrivé en tête au premier tour des législatives dimanche 30 juin. Mais les députés d'extrême droite à l'Assemblée, on n'aurait jamais essayé vraiment ? Se demande l'humain. Depuis 2022, ils sont 88. Ils sont 88. 88 assiégés au Palais Bourbon, à l'Assemblée. Que vote-t-il qui permettrait de changer la vie des Français, d'améliorer leur quotidien ? Rien, répond l'humanité. Tout comme les troupes d'Emmanuel Macron, ils se sont prononcés, ces députés RN, contre une hausse du SMIC, contre une hausse des salaires. Non, ils étaient 89, mais ils sont 88. Il y en a un qui est sorti du groupe. Privant les Français d'un gain légitime de pouvoir d'achat. Hostile à une meilleure répartition des richesses, ils n'ont pas non plus soutenu, à l'instar encore une fois des macronistes, la proposition de la gauche d'indexer les salaires sur l'inflation. Et ça n'est pas fini. Les députés RN ont voté contre le gel des loyers, pour la réduction des droits à l'assurance chômage, comme contre le rétablissement de l'ISF, se plaçant résolument comme le gouvernement du côté des plus riches. Il y a Skeletor qui dit « Oui, mais 88 députés sur 577. » Mais attends, on dit juste pour quel texte ils ont voté ou pour quel texte ils n'ont pas voté. Hein. Ça, c'est juste factuel. Je continue. Ils empêchent de fait depuis des mois l'adoption de réformes qui amélioreraient la vie des Français sur le plan économique et social. Le bilan d'Emmanuel Macron est aussi le leur, sans oublier ses choix au Parlement européen où le RN montre également son véritable visage avec, au niveau européen, des votes défavorables à la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, un vote contre la lutte contre les discours de haine à l'égard des personnes LGBTI+, à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, à un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, à l'instauration d'une taxe sur les super-profits, donc les députés d'extrême droite, RN, au niveau européen, ont voté contre tout ça. En résumé, le RN, les Français essaient déjà, résume l'humanité, et ça leur fait pas du bien. Trop de messages intéressants, je suis désolé, je n'arrive pas à vous lire tous, mais c'est très pertinent et je salue la qualité du débat dans ce chat. Vraiment. Hein. Alors, là aussi, côté factuel, nous dit l'humanité, le comportement dans l'histoire et dans l'actualité de certains élus du RN. Hein. L'humanité s'interroge. Quel est le point commun entre Pierre Bousquet, fondateur du Front National en 1972 et ancien Waffen-SS, et Ludivine Daoudi, candidate dans le Calvados du même parti d'extrême droite, rebaptisé RN en 2024. Hein, quel rapport entre Pierre Bousquet et Ludivine Daoudi ? Un goût prononcé pour les nazis, répond l'humanité. Ce 2 juillet, donc pas il y a 15 ans là, hein, hier, celle qui s'était qualifiée pour le second tour, quand même, a été débranchée par le RN pour une photo issue de son compte Facebook où on la voit sourire béat, affublée d'une casquette d'officier de la Luftwaffe arborant une croix gammée. Bon, ça, c'est une constante. C'est-à-dire que c'est pas un accident. C'est-à-dire que des candidats du RN aujourd'hui, du FN hier, qui se signalent, qui se distinguent, sont parfois poursuivis et condamnés pour des propos ou comportements racistes, l'histoire de ce parti en est émaillée. Voilà. Donc ça, c'est factuel. Bon. Anecdotique, parce que certains dans le chat pourraient dire « mais c'est anecdotique ». Pas vraiment, répond l'humanité. À plusieurs décennies d'écart, la continuité est totale à l'extrême droite malgré l'entreprise de ripollinage, des diabolisations de Marine Le Pen depuis 2011. Car Pierre Bousquet est l'homme qui a déposé les statuts en préfecture du FN aux côtés de Jean-Marie Le Pen. Le sujet est largement documenté. Le RN est l'héritier direct du regroupement 72 de toutes les chapelles de l'extrême droite française, de celle de Maurras à celle de la collaboration pétainiste, en passant par celle de l'Algérie française. Propos racistes, homophobes, nazis, à chaque élection, des dizaines de membres de RN s'illustrent par ces saillies. Ça, c'est documenté, c'est totalement factuel. Hein. Tout sauf un hasard, tant ce parti est historiquement représentatif de ce que l'extrême droite française a de plus rance, et ce malgré la dédiabolisation. Voilà. Aux électeurs du RN aujourd'hui qui disent je ne suis pas raciste, dont acte. Mais on est obligé de répondre, vous apportez vos voix à un parti qui tolère en ses rangs historiquement des gens qui sont racistes. À chaque élection, les révélations se succèdent sur le florilège de candidats RN aux sympathies pétainistes, nazis, aux propos antisémites, racistes, homophobes. Lors de cette élection, une petite centaine de candidats ou de suppléants sont concernés. À Paris, c'est la candidate dans la 10e circonscription, Agnès Pagard, qui exhorte « Relisez Coston et Ratier », qui sont des essayistes antisémites, en référence à des personnalités françaises juives. En Meurthe-et-Moselle, c'est le candidat Jouy-Joseph Péché, donc on parle d'aujourd'hui là, hein, investi sous l'étiquette LRRN, qui s'est distingué sur son compte Twitter, sur un compte Twitter anonyme dont il a reconnu être l'instigateur, en déclarant « juif qui parle, bouche qui ment » à propos de Julien Drey, l'élu de gauche. Précision, toutes ces personnes sont toujours membres du RN, dit l'Humanité. Sur le fond, il est frappant de constater les analogies entre le programme actuel du RN et celui de 1972, résumé dans une déclaration d'intention. En 1972, les statuts du FN disaient « décadence de la France », décadence de la France qui détruit la famille, affaiblit la nation, ronge les principes. Avec de tels fondateurs, de tels représentants en 2024, impossible d'affirmer que le RN, on ne sait pas où il nous mène. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est d'entendre aussi les gens qui apportent leur voix aujourd'hui au RN. Et sur l'argument, vous dites que vous n'êtes pas raciste, mais vous apportez votre voix à un parti qui aujourd'hui et historiquement tolère en ses rangs des gens qui sont racistes. Qu'est-ce qu'on répond à cet argument-là ? Je vous lis. Je vous lis, mais je ne vois pas de réponse. Pourquoi la seule réponse que je vois renvoie vers LFI ? Pourquoi, plutôt que répondre à cette question qui est très très simple, pourquoi la seule réponse que je vois renvoie à LFI avec l'accusation portée, y compris par des médias de qualité français comme Libération et Le Monde, que dans les propos ces dernières années de certains responsables LFI, il y a des propos sur Israël, sur le sionisme, qui confinent par leur violence et leur excès à de l'antisémitisme. Pourquoi vous renvoyez, pourquoi votre seule réponse est de parler de ça ? Pourquoi vous ne répondez pas juste à la question ? Je vous lis. On les permabanne ? Non, on ne permabanne pas les gens qui votent RN ici. Ce qui est intéressant, c'est le dialogue et l'échange, en fait. Je lis, hein. Il y a Armlex qui répond. Et j'aime que ce débat soit possible. Il me semble que certains ayant tenu des propos comme ça ne font plus partie du RN et que leur candidature a été retirée. Je vote RN, je n'attends qu'une chose, c'est que cette dame soit virée du parti également. La dame avec les casquettes nazies, là, elle a été virée illico du parti. Mais l'article de l'Humanité qu'on vient de lire nous explique que les propos racistes et antisémites tenus par certains récemment n'ont pas été sanctionnés. Et dans l'histoire de ce parti... ancienne et récente, tu verras ça. C'est-à-dire que régulièrement, les propos sont tellement gigantesques que le parti exclut, parce que c'est totalement contre-productif pour l'image du parti, mais que la plupart du temps, ça n'est pas le cas. Jean-Marie Le Pen, condamné par la justice française pour propos racistes et antisémites à de nombreuses reprises, n'a pas été exclu de son parti, quoi. Même si, et il faut aussi le dire et le reconnaître, sinon vous n'avez pas toutes les facettes du sujet, même si Marine Le Pen a pris très très tôt les distances par rapport à son père. C'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas comprendre que Marine Le Pen ne commet pas les dérapages racistes et antisémites de son père et a pris ses distances, alors sincère ou pas, c'est pas le sujet, avec son père, ne peuvent pas comprendre l'équation. Voilà. Mais Marine Le Pen reste plus la présidente, puisqu'elle est, c'est Jordan Bardella, mais la présidente du groupe à l'Assemblée, d'un parti qui, dans ses rangs, contient des membres qui sont racistes et antisémites. Il y a NX Zolo qui dit tu peux dire de ça de tous les partis, Samuel, arrête ton cirque. Je peux dire quoi, je peux dire que dans tous les partis, il y a des gens qui ont été condamnés pour des propos racistes et antisémites. Ben, donne-moi un autre parti que le RN ou peut-être Reconquête de Zemmour, dont les membres ont été régulièrement condamnés pour des propos racistes et antisémites. J'attends. Ok. Let's go. C'est le tous pareil là, l'argument populiste. Non, sinon pas perdre ma banne, c'est juste que la remarque est fausse et donc je veux que la personne se rende compte. Alors, donnez-moi quel autre parti à part le RN et le FN hier, ou à part Reconquête quand même, qui est plus à droite encore, qui puisse avoir été condamné pour des propos racistes ou antisémites. Ok, bon, on peut continuer, je pense. Alors, c'est bien beau de donner la voix aux électeurs, mais à un moment, il faut aussi s'intéresser à ceux qui vont être peut-être directement touchés par ce qui va se passer dans les prochains jours. Depuis le 9 juin, je retiens mon souffle. Qui dit ça en France ? C'est la une de La Croix ce matin. La Croix a recueilli le témoignage de Français issus de l'immigration, inquiets de l'éventuelle victoire du RN dimanche prochain. Des Français issus de l'immigration confrontés à l'éventualité d'un gouvernement RN témoignent. Tous font part de leur crainte du programme du parti, de la libération de la parole raciste. Jusqu'ici, Imen, franco-marocaine de 30 ans, née en Auvergne, immigrée de la troisième génération, se sentait parfaitement intégrée dans la société française. Mes parents m'ont donné toutes les clés, explique-t-elle. Je n'ai jamais vécu dans une cité, j'ai fait des études, une bonne prépa, une école de commerce, je travaille à Lyon, dans un cabinet de conseil depuis 6 ans, je suis propriétaire. Malgré tout ça, Imen est très inquiète de l'avenir si le Rassemblement national devait accéder au pouvoir à l'issue du second tour. Mon prénom et mon nom de famille ont une consonance arabe, dit-elle, et je constate que depuis la dissolution de l'Assemblée, la parole se libère. Des réflexions me sont directement adressées, comme « Fais attention, c'est pas halal. Ta maman sait cuisiner autre chose que du couscous ?» Pour l'interrogation. « Ah, tu bois de l'alcool. » Jusqu'ici, jamais, jamais, elle dit que c'est nouveau. Jamais, elle ne s'était sentie renvoyée à sa condition de personne issue de l'immigration. Désormais, certains collègues du bureau me disent sans problème qu'ils vont voter RN. Elle dit que c'est nouveau. Et des clients me demandent pour des recrutements de leur chercher des gens du cru, qui mangent du cochon, disent-ils. J'ai récemment entendu les Arabes, pas plus de 2 par bureau, sinon ça fout le bordel. Elle dit que ce sont des propos nouveaux qu'elle n'entendait pas avant. Bref, constate-t-elle, ils ne se cachent plus, alors avec le RN au pouvoir, ils seront davantage protégés, et moi, à l'inverse, je ne le serai plus. C'est peu dire que la perspective de l'arrivée possible du RN au gouvernement inquiète les personnes issues de l'immigration. Dans son programme, Jordan Bardella fait de ce sujet l'une de ses 3 priorités. Il est déjà question de réserver certaines aides sociales aux Français, observe notamment Grégory Abelli de SOS Racisme, et Jordan Bardella a déjà annoncé son intention de réserver le logement social aux familles françaises. Tout cela va se retourner contre de très nombreux ménages modestes, mais surtout avec cette priorité nationale, le RN va introduire dans la loi une sorte de droit à la discrimination. Une persistance de discrimination très importante, observe Myrna Safi, qui est professeure de sociologie à Sciences Po. Aujourd'hui en France, par exemple, bon, ça vous le savez, pour obtenir une réponse à une offre d'emploi, avoir un candidat avec un nom à consonance arabe, eh bien fait qu'on doit envoyer 30% de CV en plus, hein, pour qu'un candidat avec un nom à consonance française. Et c'est à peu près pareil sur le marché du logement locatif, et je pense que vous ne l'ignorez pas, sauf à faire l'autruche. Aujourd'hui, la loi interdit ce genre de discrimination, mais imaginons que cela peut devenir ce que cela peut devenir dans un contexte où il deviendrait acceptable, voire louable, de stigmatiser l'étranger. Merci la Tote, merci Shikiro. La perspective angoisse particulièrement Silan Saktia, jeune homme de 26 ans qui a grandi près de Creil, dans une famille indienne. Il a intégré Sciences Po. Grâce à un dispositif d'égalité des chances, il vient d'être admis à l'Institut National du Service Public. Vous savez, c'était l'ENA avant. Bon, étude extrêmement brillante. Et il dit, ce jeune homme, c'était un rêve pour moi, cette école. J'habite en France, je crois en ses valeurs, mais depuis le 9 juin, j'avoue que je retiens mon souffle. Il s'inquiète en particulier du projet du RN d'exclure les binationaux de certains postes stratégiques. Lui-même n'est pas binational, hein, il n'a pas de nationalité, il n'a que la nationalité française. Mais il craint l'extension possible de cette idée. Ça débute avec ceux qui ont la double nationalité, mais ensuite ça peut s'élargir aux Français d'origine étrangère, et là je serai directement concerné. Au-delà du programme, l'essentiel de ce que craignent les personnes issues de l'immigration réside dans la libération d'une parole raciste, jusqu'ici contenue par la loi et par les normes sociales. Est-ce que les digues sont en train de sauter? La LICRA, qui reçoit des signalements concernant des actes racistes ou antisémites, fait état d'une augmentation de 65% depuis le 9 juin. Bonne formation, MMG. On n'avait jamais vu une telle augmentation, analyse Tina Théalet de la LICRA, et il semble y avoir un lien direct avec l'idée que désormais le RN va être au pouvoir. Par exemple, on nous fait remonter des propos tels que Bardella au pouvoir, les Arabes à l'abattoir. Ou Monsieur Bardella a gagné les élections, donc maintenant direction l'avion. Ambiance. Voilà, c'est-à-dire dans la croix. Je vous lis, et après on lit l'Humanité. Écho Padman dans le chat. Réel, tout ce qui est dit dans l'article, exactement ce que je vis depuis 4 ou 5 ans. Je vous lis, hein. Il y a Almopro qui a une très bonne idée, qui dit « Samuel fait un Discord et débat en direct avec nous. En vocal, c'est plus simple et même pour l'écrit, c'est beaucoup plus simple et efficace. » Bah oui, bien sûr. Je vais faire un Discord en vocal avec 6969 personnes. C'est une assez bonne idée en vrai. Je pense que ce sera assez audible. Hein ? Je pense que ce sera assez sympa à écouter. Hein ? La matinée éteinte, Battle Royale. On va l'appeler comme ça. Hein ? Ah non, mais tu invites petit à petit. Merci, Vexopilo. Donc, 6969. Donc, je donne une demi-heure à chacun. Hein ? Parce qu'il faut donner la parole à tout le monde, faut pas déconner. Ok, let's go. Alors, attends. On va dire 6969. Donc, juste ce matin, parce qu'il faut faire ça pour tous les jours. On va dire, faut bien discuter. Allez, bon, allez, débat express, 15 minutes. 15 minutes, ok, ça fait 104 535 minutes. Donc divisé pour ramener en heures, ça fait 1742 heures. Donc plutôt que la revue de presse de ce matin, je vais faire un stream de 1700 heures à peu près, 15 minutes chacun, un par un. Ouais. Bon, on va faire ça. Comment je vous choisis ? Comment je vous choisis pour que vous soyez représentatif? Vous imaginez cet enfer? Au moment même où je commence ce truc, hein, vous êtes 7140 là. Imaginons j'en choisis 10. Les 7130 autres vont me tomber dessus en disant « Mais pourquoi tu l'as choisi, lui ?» Mais il n'est pas du tout représentatif. Il est débile. Hein, mais quel enfer. Mais quel enfer. Mais vous êtes fou. C'est la pire idée. C'est la pire idée, quoi. Ah non, non. Ah, mais faites-le, vous, par contre. Créez cette chaîne Twitch pour faire ce truc. Moi, je veux voir ça. Je ne veux pas le faire, mais faites-le en vrai. Je vous promets que je vous regarderai. Non, c'est chou, mais non. Je passe mon tour. C'est trop mignon parce qu'il y en a qui se plaignent de ne pas avoir la parole et qui le disent dans le chat. C'est affreux, je n'ai pas la parole, dit quelqu'un dans le chat. Ben en fait si, du coup. J'adore troller un peu. Bon, alors ça va encore énerver certains, on va dire l'humanité qui nous dit que l'immigration, c'est peut-être une chance pour la France aussi. Ah, c'est un truc qu'on disait à une époque, puis c'est marrant, c'est plus personne dit ça, en fait. C'est devenu totalement has-been de dire ça. Pas de République sans eux. Et là, on ne parle pas des Français d'origine étrangère, on parle des immigrés, dit l'humanité. Le projet du RN de mise au banc des personnes d'origine étrangère repose sur des mensonges, nous dit l'humanité. Hein, son programme de rupture d'égalité des droits menace les fondements de notre société. Immigration, 5 mensonges de Jordan Bardella. À longueur d'antenne et souvent sans contradiction, le RN abreuve les citoyens de fausses informations qui stigmatisent les immigrés, leur font porter la responsabilité des maux de notre société. Passage au crible des affirmations sans fondement du chef du parti d'extrême droite. Let's go. Jordan Bardella et ses affidés, qui ne cessent de répéter à l'envi que les étrangers non blancs et les Français issus de l'immigration sont responsables de la délinquance, du déclassement des couches populaires et des déficits publics, hein, on est d'accord, on est sur le programme du RN. En réalité, comme le souligne Michel Agier dans une tribune au Monde, ces idées sur la migration, largement démenties par la recherche, masquent une pensée raciste. Pour l'anthropologue, le racisme anti-juif, anti-noir, anti-musulman est le moteur de l'extrême droite d'hier à aujourd'hui. En dépit des arrivées d'exilés croissantes en Europe depuis 2015, la part d'étrangers qui franchissent les frontières extérieures de l'Union européenne reste faible en proportion. Dans le contexte d'un net accroissement des migrations dans le monde, l'Europe n'est la destination que de 31% des personnes migrantes, la plus large part des déplacements contraints se faisant dans les pays limitrophes de ceux de départ, les pays voisins. De surcroît, la France est l'un des pays où l'immigration est la plus faible en Europe de l'Ouest, hein, 0,6% contre 1% au Royaume-Uni, 1,1% en Allemagne, 1,6% en Espagne. Sur les 20 dernières années, l'augmentation annuelle du nombre de personnes nées à l'étranger est en France d'environ 1,6 pour 1000 habitants. C'est environ 2 fois moins qu'en Allemagne, en Italie ou au Royaume-Uni, 3 fois moins qu'en Espagne, Autriche, en Suède. Parler d'immigration massive vers la France est donc contraire aux faits, dit ce chercheur. L'argument avait été dégainé par Bardella en 2023 pour contrer la proposition du gouvernement visant à régulariser les étrangers employés dans les secteurs en tension, régulariser les travailleurs sans papier, créer les conditions pour tirer les salaires vers le bas. L'immigration est utilisée par les grands groupes pour peser à la baisse sur les salaires, n'a cessé depuis d'asséner Jordan Bardella au mépris des études économiques sur le sujet. L'impact de l'immigration sur le salaire moyen des travailleurs autochtones est nul ou légèrement positif, affirme Anthony Edo, membre du CEPI, qui est le Centre de Recherche et d'Expertise en Économie Internationale. Selon le chercheur, si l'immigration peut à court terme accroître la concurrence entre les travailleurs et entraîner une baisse du salaire, cet effet momentané est contrebalancé par l'impact positif de l'immigration qui favorise l'investissement et accroît la capacité globale de production. Il est toujours délicat de réduire les phénomènes migratoires à la seule dimension comptable, combien ça coûte versus combien ça rapporte. Mais la propagande de l'extrême droite oblige à se plonger dans les chiffres. Selon le RN, les immigrés percevraient bien davantage de prestations sociales qui ne contribueraient à la croissance du pays. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. En réalité, écrit l'Humanité, la plupart des études d'économistes sur le sujet concluent un impact budgétaire nul ou légèrement excédentaire de l'immigration sur les finances publiques. Exemple, étude de l'OCDE datée de 2021 qui estime qu'entre 2006 et 2018, la contribution des immigrés dans 25 pays, France, Allemagne, Italie, etc., sous forme d'impôts et cotisations sociales a été supérieure aux dépenses publiques consacrées à leur protection sociale, leur santé, leur éducation. Voilà. On y croit. Bien, le mot qui dit que ces chercheurs nous mentent. Merci, Neoglobus, pour le prime. Merci Spookix pour le prime. Oui, l'humanité est un journal de gauche, Farsight, tout à fait. Il a toujours été, il le revendique. Je vous lis. Hein. Ouais, on entend les oiseaux aussi. Salut Samuel, je sais que tu prônes les discussions entre opinions politiques divergentes. Ouais, Siboc. J'essaie de faire ça. Mais je constate aussi que, parce que du coup, on a un petit recul sur cette chaîne aussi. Merci Blanqueur 80 pour le prêt. On a un petit recul sur cette chaîne aussi. Donc ça fait 4 ans que je fais cette revue de presse ici. Et quand même, ce que je dois constater, c'est que cette parole d'électeur du RN, elle n'a jamais été aussi présente. Je pense que pour partie, elle se taisait, elle ne s'affirmait pas. Et aujourd'hui, elle se dit haut, fort, je dirais avec une forme de fierté même, quelque chose de très assumé. Et effectivement, c'est quelque chose que je vois ici. Les gens en ont marre de se faire marcher dessus, c'est tout, dit Hale. Et donc, parce que tu penses que notre société ne tourne pas rond et que notre pays n'est pas géré comme il le devrait et que il y a des choses qui auraient dû être réglées qui n'ont pas été faites. Donc, c'est l'argument de on n'a pas essayé ça, donc on essaye. C'est là où en fait on diverge. Ah, je l'attendais. Verge. Merci. Parlons des choses sérieuses, parlons du fond un petit peu. Merci. Je vois que l'humour n'est pas parti, lui, et ça, c'est cool. Parlons d'économie aussi, avec Lacroix, qui donne, c'est très intéressant, la parole à deux économistes qui ne sont pas d'accord entre eux. Deux économistes qui se penchent sur les programmes économiques des deux camps qui prétendent à la victoire, c'est-à-dire la gauche, le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National. Face à la possible arrivée au pouvoir du RN, qui a fortement édulcoré son programme social et fiscal, les économistes sont divisés. Certains craignent que le programme de rupture défendu par la gauche soit plus néfaste encore que pour l'économie du pays. Et deux économistes ont accepté de débattre de manière apaisée dans les colonnes de La Croix. Ça, c'est intéressant parce que vous allez avoir deux regards d'économistes, de chercheurs, qui ne sont pas d'accord entre eux sur les conséquences éventuelles de ces deux programmes économiques, gauche-RN. D'un côté, vous avez Anne-Laure Delatte, qui est chargée de recherche au CNRS, et Christian Gollier, qui est directeur général de Toulouse School of Economics. Christian Gollier. Aujourd'hui, deux blocs d'économistes s'opposent, explique-t-il. Le bloc des progressistes de gauche, hein, dont il n'est pas lui, pour qui l'objectif principal n'est pas la croissance, mais la réduction des inégalités, en un bloc et un autre bloc, qu'on pourrait qualifier de plus libéral, qui estime que la priorité est de faire grossir la taille du gâteau pour que cela profite à tous et notamment aux ménages les plus vulnérables. Et lui, il est plutôt dans ce camp-là. Ces économistes dont je fais partie, dit-il, pensent qu'il faut trouver un bon compromis entre prospérité et réduction des inégalités. En effet, on sait bien qu'une trop forte fiscalité à visée redistributive risque en réalité de désinciter l'investissement et de limiter la création de richesses à redistribuer. On est sur une pensée économique qui est celle notamment celle du président Macron. Merci Brandy Hodog pour les 5 abonnements offerts à la commu. Tu régales. Et du coup, ça me donne super faim. En revanche, alors la parole à Anne-Laure Delatte maintenant, hein, qui est, d'après Christian Gollier, plutôt du côté des économistes progressistes de gauche. Elle dit « Je ne crois pas que lutte contre les inégalités rime nécessairement avec faible prospérité. Bien au contraire. La politique de l'offre, telle qu'elle a été menée par le gouvernement, n'a pas eu les résultats escomptés. La hausse du taux d'emploi n'a pas permis de compenser les baisses de prélèvements obligatoires, ce qui a conduit une hausse sans précédent de la dépense publique. » Peut-être que la crise sanitaire est passée par là quand même. C'est pourquoi, pour relancer l'activité, le nouveau Front populaire mise à la fois sur un choc de pouvoir d'achat en faveur des classes populaires et moyennes, mais aussi sur les investissements de long terme dans l'éducation, la santé et les services publics qui concourent fortement au niveau de productivité d'un pays et sont indispensables pour assurer sa prospérité. Sur le RN maintenant, la parole à Christian Gollier. Étant donné les différents rétropédalages des dernières semaines, il est difficile de juger du programme économique du RN, qui est un peu embêtant. Depuis que le parti a opéré son tournant de la rigueur dès le début de la campagne, on a toutefois le sentiment qu'il n'y aura pas de rupture franche à court terme avec le gouvernement précédent sur la compétitivité des entreprises, sur la dette publique. En revanche, le RN au pouvoir cherchera à démanteler nos réglementations environnementales, ce qui serait une catastrophe pour la planète, mais aussi pour l'industrie des énergies vertes, de l'automobile ou encore du bâtiment, dit-il. Sur le programme du NFP maintenant, il y a une vraie rupture économique avec une extrême gauche qui l'a visiblement emportée sur la social-démocratie au sein de l'Alliance. Ce programme plus radical que celui des socialistes en 81, à l'exception des nationalisations, nourrit de vraies inquiétudes des experts sur les comptes publics, sur les investissements, l'emploi et la prospérité du pays. La parole maintenant à l'économiste Anne-Laure Delatte. Je n'ai pas cette lecture du programme de la gauche. J'y vois au contraire un programme social-démocrate qui permet de remettre le pays sur une trajectoire de long terme face aux défis climatiques. Et il existe une autre voie que celle prise par les précédents gouvernements, une voie qui lève des recettes sur les plus riches et les grandes entreprises pour réduire le déficit public, réduire les inégalités et engager les dépenses d'avenir. Je rappelle qu'en face, pour financer les 12 à 17 milliards d'euros de baisse à 5,5% de la TVA, donc ça c'est le RN, sur les produits énergétiques, le RN mise sur la suppression des prestations sociales aux personnes issues de l'immigration. Or, les études économiques montrent bien que le coût de l'immigration pour les finances publiques est nul ou quasi nul. Soit ils mentent à leur électorat, soit ils sont incompétents, dit cet économiste. Que répond l'autre économiste sur cette affirmation qu'il n'y a aucune économie à faire sur les prestations sociales aux personnes issues de l'immigration? Il dit « Je suis complètement d'accord avec vous sur ce point ». Il n'y a aucune recette supplémentaire à espérer du côté de la lutte contre l'immigration. Les études montrant qu'en matière économique, l'immigration raisonnée est favorable à la prospérité du pays. C'est le journal de la Croix. Christian Gollier, qu'est-ce qui vous inquiète autant dans le programme du NFP? Parce que lui, il est inquiet de ce programme de gauche. Il dit qu'il y a une vraie volonté anti-business, anti-marché, comme le blocage des prix des produits alimentaires qui, à chaque fois qu'il a été mis en place, a conduit à des problématiques de rationnement et d'appauvrissement. Comment financer le retour à la retraite à 60 ou 62 ans? C'est un choix de société de savoir si on veut plus de loisirs ou plus de pouvoir d'achat, mais prétendre qu'on peut avoir les deux, ce n'est pas raisonnable. Au fond, là cette fois c'est la parole à Anne-Laure Delatte, je crois que ce qui inquiète vraiment les opposants, merci Zéphir pour le 29e mois, au NFP, ce n'est ni la hausse du SMIC, ni quelques blocages de prix, ni même l'abrogation de la réforme des retraites. Ce qui inquiète vraiment les opposants et les marchés, c'est la radicalité de leurs propositions en matière de fiscalité. En rendant plus progressif l'impôt sur le revenu, en réformant l'impôt sur la fortune pour le rendre vraiment efficace, la gauche souhaite renforcer la fiscalité des plus riches, ce que redoute la classe dominante de ce pays. Question de la Croix. La gauche propose de taxer les grandes fortunes et les multinationales pour financer la transition écologique. Est-ce que ce n'est pas une piste intéressante? Et Christian Gollier, il dit pas trop, non. Il dit quoi? Il dit avec des prélèvements obligatoires qui représentent 47% du PIB, La France affiche déjà le taux d'imposition le plus élevé d'Europe, derrière le Danemark. Augmenter encore de 5% cette pression fiscale allant jusqu'à la quasi-spoliation sur les hauts revenus et transmissions, comme le préconise le NFP, serait une véritable désincitation à investir pour les détenteurs du capital. Si un tel programme devait être appliqué, une bonne partie de la richesse productive quitterait le pays. Ce serait un désastre pour tous, même si le désir égalitaire est louable en soi. En réalité, la gauche fait une erreur de diagnostic en croyant que c'est en taxant les plus riches qu'elle va réduire la pauvreté dans notre pays. À l'inverse du travail, le capital est très mobile. Il est très probable qu'au niveau de pression fiscale proposé par le NFP, la hausse du taux de prélèvement réduise les recettes fiscales, conformément à la courbe de l'affaire. Trop d'impôts tue l'impôt. Vouloir taxer les milliardaires au niveau mondial comme on l'a fait pour les multinationales est une piste intéressante, mais le faire à l'échelle nationale serait une grave erreur. Alors Anne-Laure Delatte n'est pas d'accord. Elle dit « Comment peut-on dire que les inégalités n'augmentent pas en France quand les 500 plus grosses fortunes ont vu leur patrimoine progresser de 200 à 1200 milliards en 10 ans, multiplication par 6 ? Concernant l'impôt sur le revenu, rappelons qu'il s'agit de taux marginaux. Le revenu de personne ne serait imposé à 75%. 75%, c'est quand même beaucoup. C'est bien par tranche de revenus que les taux sont appliqués, mais ça, on sait, hein, c'est le taux marginal d'imposition. Voilà. Bon, bah là... un débat classique d'économistes, hein, avec une sensibilité plutôt de gauche, de redistribution et de prélèvement, et l'autre un peu plus libéral. Rien de très surprenant, mais c'est intéressant d'avoir tous les arguments sur le papier et appliqués surtout à ces deux programmes économiques du RN et de la gauche. Merci Ragnar Leroy. Ragnar Leroy, merci pour le 8e mois. Que conclure, dit Aligo Vengeur? Je ne sais pas, c'est à vous de conclure. Moi, je ne suis pas gourou, hein. C'est à vous de vous faire votre propre opinion. Allez, on finit de façon un peu plus légère. Oh, c'est bien législatif, mais bon, la vie continue. Et puis, j'aime bien vous parler d'autre chose. Hier, on a eu deux pages passionnantes dans La Croix sur le fait que la question de l'accompagnement psychologique des femmes qui faisaient des fausses couches en France n'était absolument pas pris en compte et qu'il fallait vraiment faire un effort là-dessus. C'était deux pages vraiment géniales dans La Croix. Et dans Les Échos aujourd'hui, je vous ai trouvé une page sur ce championnat d'e-sport lancé en Arabie Saoudite. Et je vous avoue que je ne sais pas trop quoi en penser. J'avais lu assez peu de choses jusqu'ici là-dessus. Dans le sommaire, tout à l'heure, vous étiez plusieurs à me dire que c'était pas terrible cette histoire. Organisé à Riyad, donc. Ce tournoi international d'e-sport réunit aujourd'hui les meilleurs clubs mondiaux qui vont s'affronter sur une vingtaine de franchises parmi les plus populaires de l'e-sport. On a du LOL, on a du Dota 2, on a du CS, du Counter-Strike, on a du Rainbow Six, etc. Parmi les équipes françaises, il y en a deux. Il y a l'AKA Corp et il y a Vitality, je crois. Il y a Spicezo qui dit « Pourquoi pas terrible, c'est bien ?» Bah, je sais pas, en fait, tout à l'heure, les gens étaient un peu critiques. Le fait que ce soit l'Arabie Saoudite, le fait... soit une histoire de gros sous, je sais pas, on va voir. Let's go, on lit. Article de Nicolas Richaud. L'e-sport a désormais la Ligue des Champions. Sa Ligue des Champions. L'e-sport World Cup. Mercredi 3 juillet, c'est aujourd'hui, doit s'ouvrir en grande pompe ce tournoi international de jeux vidéo compétitif qui a lieu en Arabie Saoudite et réunit notamment les 30 meilleurs clubs mondiaux qui vont s'affronter sur une vingtaine de franchises vidéoludiques parmi les plus populaires de l'e-sport, League of Legends, Dota 2, CS, Rainbow Six. Il n'y a pas Valorant ? Il n'y a pas Valorant ? Ah, si. Il y a Onigami qui me dit si. Si, il y a Valo. Ok, bah tout va bien alors. Comme dans le sport traditionnel, chacun de ces titres s'apparente à une discipline singulière avec ses règles, ses codes, ses champions, ses équipes phares. Parmi les prétendants au sacre de cette compétition qui se terminera fin août, deux clubs français de renom, Vitality et la Carmine Corp. Voilà. Chacune des équipes doit s'aligner sur la vingtaine de jeux. Ah ouais, l'équipe doit jouer sur la vingtaine de jeux. Derrière ce tournoi à l'ambition XXL, on retrouve le groupe Savvy Gaming Group, détenu par le Public Investment Fund de l'Arabie Saoudite, qui avait fait savoir fin 2022, et ça on en avait parlé à l'époque, qu'il comptait investir près de 40 milliards de dollars dans l'industrie du jeu vidéo, dont l'e-sport. Un dessin que les contempteurs du régime saoudien parmi les plus répressifs au monde, selon Amnesty International, malgré ses efforts récents pour attirer les industries de méta de médias à l'étranger, qualifient d'e-sport washing. C'est pour ça que certains dénoncent en fait cette compétition, notamment c'est pour la stratégie d'e-sport washing, d'améliorer en fait la réputation, l'image de l'Arabie Saoudite par le sport, par le divertissement. Merci Tribun Rouge pour le Prime, joli pseudo. L'eSport World Cup dans les stades de Riyad où vont se dérouler les matchs vont être diffusés sur les principales plateformes comme Twitch ou YouTube. Hein, on va pouvoir suivre ça sur Twitch. Sur quel, vous savez sur quelle chaîne ou pas? La force de cet événement est que l'eSport World Cup Foundation a su convaincre les grands éditeurs comme Valve, Riot, Epic ou Ubisoft d'inclure leurs jeux chez Kamel. Ok. OTP pour LOL. OTP pour LOL chez Kamel. Ok. Donc les éditeurs ont suivi. Habituellement, les compétitions sont plutôt centrées sur un seul titre. Il s'agit là du premier grand tournoi mondial multijeu de l'ère moderne de l'e-sport. Pour attirer les stars des différentes disciplines, l'e-sport World Cup Foundation a mis la main à la poche en dotant le prize pool, l'ensemble des gains accordés aux participants, de plus de 60 millions de dollars. Oh. Le partage des recettes des places payantes s'étale de la 16e ligue, 150 000 dollars, à la première équipe qui gagnera 7 millions de dollars. Une manne précieuse pour les clubs d'e-sport qui sont très populaires mais peinent à monétiser leur audience, faute notamment de droits de diffusion copieux, leur étant reversés comme c'est le cas dans les sports traditionnels. Résultat, de nombreuses équipes peinent à équilibrer leur modèle économique et les rares structures ayant tenté le pari de la bourse sont toutes connues déconfiture sur déconfiture. Alors que les clubs génèrent la majorité de leurs revenus via le sponsoring, la tenue de ce nouveau tournoi XXL est-elle à même de déclencher une salve d'arrivée de nouveaux sponsors, nouveaux annonceurs dans l'écosystème? Si c'est un succès, que les audiences et le taux de remplissage dans les stades suivent, ce sera potentiellement le cas, mais il n'y a pas encore eu d'effet lié, estime Nicolas Morin, cofondateur et PDG de Team Vitality. Votre avis? Je suis sûr que vous connaissez mieux ce sujet que moi. Merci Nassuré pour le Prime. Merci à toi. Non, 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 Prudic, je crois pas. 700 millions divisé sur 20 jeux, ça fait environ 400K par équipe. Non, non, non. Non, non, c'est en fait, la compétition, elle est sur l'ensemble des jeux. Chaque équipe doit jouer à tous les jeux. Et je pense que après, il y a un classement qui additionne les résultats sur tous les jeux. Et donc la première équipe, elle gagne, je ne sais plus combien, 7 millions. 7 millions. Et la dernière, la 16e, 150 000 dollars. Les teams ne doivent pas jouer sur tous les jeux, dit Lilandry. Ben alors dans ce cas-là, les échos se trompent. Réunit notamment les 30 meilleurs clubs mondiaux qui vont s'affronter sur une vingtaine de franchises vidéoludiques. Vous pensez qu'ils jouent pas sur tous les jeux? Attendez. Chacune des équipes doit s'aligner sur la vingtaine de jeux. Ben, les échos disent qu'il faut jouer tous les jeux. Alors peut-être que, attention, hein, c'est une activité humaine le journalisme, hein, ils peuvent se tromper. Hein. Chacune des équipes doit s'aligner sur la vingtaine de jeux. Alors dans ce cas-là, les échos se trompent, c'est ce qui est possible. Hein. Vous corrigez cette information. Ok, bon bah une erreur des échos, ça arrive, hein, ça arrive. D'accord, eh ben, corrigeons cette info alors. Ça s'appelle l'info augmentée. C'est quand vous venez corriger un article, je trouve ça très très bien. Nous corrigeâmes, exactement. Par contre, il y a bien une récompense pour l'équipe qui fait la meilleure perf sur tous le tournoi, dit Onigami. Donc, il y a bien un intérêt à s'aligner sur le plus de tournois possible. Okay. Bonjour, en gros, c'est comme en Formule 1, il y a un classement par équipe, tous jeux confondus, ce qui incite la team e-sport à envoyer un maximum d'équipes sur plusieurs licences, me dit Levis TV. Eh bien ou pas, vous validez-vous cette espèce de Ligue des champions d'e-sport ou pas? Pas du tout, non, si, validé, pas dans ce pays, non pour l'argent avec lequel il est financé, bof, le format est trop court, ce sera pas du bel e-sport. Non, encore moins là-bas. Je suis pas super emballé. Concept est bien, mais bon, le pays qui l'organise un peu moins. Principe, oui, organisateur, non. Moi, moyen, je fais que ça soit sur plusieurs jeux, je kiffe pas trop. Soft power. Il y a déjà des vrais worlds sur ces jeux. Ok. Tu votes qui, Zizouin? Je vote pour toi, Zizouin. Moi, je vote pour toi. Si ça n'avait pas été l'Arabie Saoudite, oui. Pas franchement, mais c'est surtout à cause de l'endroit où ça se passe, et clairement pour se faire une bonne pub. Vraiment chiant que ce soit en Arabie Saoudite, dit Sophie Nwomo. Arabie Saoudite, non, dit Ketma. Assez intéressant. Ok, les amis, la nuit était courte, j'ai dormi 3 heures, j'espère que j'étais pas trop cramé et un peu à la hauteur quand même de ce rendez-vous important de parler de l'actualité avec vous ce matin. Voilà, je tenais à le faire, même si on a terminé tard le stream Valo d'hier soir parce que je trouve que l'actualité est importante. Dimanche soir, on a fait une soirée spéciale premier tour. Lundi matin, on a fait une revue de presse. Mardi matin, on a fait une revue de presse. Mercredi matin, donc ce matin, on a fait une revue de presse. Hier soir, on a fait un peu de Valo. Jeudi, on va jouer au jeu enchaîné. Là, je ne me rappelle jamais le nom là. Chain Together avec Elydia et avec Fugu. Ça, c'est jeudi. Ce soir, je ne sais pas s'il y aura du gaming. Peut-être. Peut-être justement pour jouer un petit peu à Chain Together, pour découvrir un petit peu le jeu avec vous. Pour voir un petit peu comment ça marche, pour pas être trop un boulet pour Fugu et Lydia, parce que j'aime pas trop ça, moi, être un boulet pour les autres. Je serai un boulet quoi qu'il arrive. Non, je crois que c'est Chain Together. Quelqu'un me dit c'est Unchained Together. Je crois que c'est Chain Together. C'est pas Unchained. C'est enchaîné, justement. Hein? C'est bien Chain, pas Unchained. Ouais, c'est Chain, exactement. C'est enchaîné. C'est pas. Voilà. Après, tu as le droit d'enlever. Dans ton intimité, si vous jouez avec des chaînes, à un moment tu peux les enlever, tu peux unchain, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est chain, là on s'enchaîne avec Fugu et Lydia. On va s'accrocher, on va s'enchaîner, ouais. Tous les trois. Je crois même qu'il y a un quatrième. Voilà, ça va être très chaud. Voilà, donc je vais peut-être je vais peut-être y jouer avant jeudi soir pour voir un peu comment ça marche. Déjà, j'ai appris grâce à vous que ça jouait plutôt clavier-souris. Moi, je pensais que ça jouait manette, donc je vais aller le télécharger. Peut-être là maintenant, j'ai un peu de temps. Et puis on va jouer à ça. Et donc ce soir, peut-être du gaming, mais tard parce que j'ai un dîner en famille. Et puis par contre, je ferai sans doute pas de revue de presse jeudi matin, donc demain. Sans doute pas de revue de presse vendredi matin. Sans doute pas de revue de presse samedi matin pour faire un petit break. Parce que je crois qu'on s'est dit quand même beaucoup de choses sur les législatives. Par contre, grosse soirée électorale. Dimanche soir, obligé. À partir de 19h, je pense. Tu as expliqué à ta compagne que tu vas t'enchaîner à une jeune femme? Ouais, je m'enchaîne à Fugue aussi. Hein. Donc, grosse soirée électorale dimanche soir. Parce que là, on va vivre l'actualité, on va vivre l'histoire en direct. Hein. C'est quand même historique ce qui est en train de se passer. Et lundi matin, grosse revue de presse aussi. Voilà. L'idée, c'est de faire au moins un stream par jour. Bon, là, j'en ai fait deux. J'en ai fait deux hier, mais bon, c'était une petite exception. Voilà. Et là, je vais préparer une réunion parce qu'à midi, j'ai une petite visio pour préparer la rentrée sur Twitch et un autre rendez-vous à 13h. Voilà. Merci beaucoup pour ce matin, c'était cool. Petit stream piscine pendant les élections. Vous voulez que je... Vous voulez qu'on fasse la spéciale législative deuxième tour en piscine? Je me mets un petit maillot de bain un petit peu. Merci Brandy Hot Dog, tu régales. Merci Sébastien pour le Prime. Merci Nick pour le Prime. Merci Nassuré pour le Prime. Vous voulez? Ouais, pas de problème. Ouais, un petit maillot? Petit maillot comment vous voulez? Petit maillot. Quel genre de maillot vous voulez? Maillot comment? Maillot comment? Moultub, ok, ok. String léopard, tonga, petit string, un bleu, blanc, rouge, petit borat, je valide. Ok. Transparent, ok, 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 ouais, ok. Hein? Putain, les bleus, blancs, rouges, waouh. À paillettes. Ok. Ils sont fous. Allez, qui on raid? Y a qui là, les amis en live? Donc, tout, on va faire un petit raid. Oui. Oh, il y a trop de gens. Hier, on a raid Anae. Ah, j'ai une petite envie là. Ah, j'ai une autre envie là. C'est fou tous les gens bien qu'il y a sur Twitch. En vrai, c'est fascinant l'offre qu'il y a aujourd'hui. Vous aviez une envie? Vous? Ouais, il y a plein de gens sympas. Hein. Ouais, je pense que j'ai une bonne idée là en vrai. Ouais, j'ai envie de faire ça. Ouais, de boucler cette boucle sympa. Il y a quelques jours, il y a un streamer qui a fini un truc incroyable, qui m'a totalement bluffé. Le gars, il a fait Paris-Marseille à pied. Paris-Marseille à pied, en streamant. Au profit de la Ligue contre le cancer. Voilà. Et on a suivi ça. On l'a soutenu à notre façon en faisant 2-3 petits raids. Et j'ai trouvé ça formidable. Très beau. Une belle aventure humaine. Voilà. Et Monody, M-O-N-O-D-E, il est en live actuellement. Donc je propose qu'on aille lui dire encore bravo pour ce qu'il a fait. Parce qu'il a, en plus, il a collecté une cagnotte de fou pour la Ligue contre le cancer. Et donc voilà, je suis très admiratif de ce qu'il a fait. Le raid est en train de charger. Je vous souhaite une très belle journée. Je sais que les temps sont un peu tendus, mais je voudrais saluer votre effort de discuter ensemble ici, dans ce chat, malgré vos et nos différences. Voilà. Ma parole n'est pas d'évangile. J'ai des opinions, des valeurs que j'aimais parfois. Ce sont les miennes, elles n'engagent que moi. Vous pouvez être d'accord ou pas avec, mais l'important, c'est qu'on arrive à en parler. Je trouve ça vraiment cool. Merci Maglarousse, la vraie. Merci Laurine. Merci Sébastien. Et donc, je vous dis peut-être à ce soir pour du gaming, au plus tard demain soir avec Elidia et Fugon, on va bien rigoler. C'est parti pour le raid. C'est une belle personne qu'on va rejoindre et s'appelle Monody. À très vite. Ciao, ciao. Merci pour tous. Merci, Nicolo.
Allô? Pourquoi on le voit pas? Ah oui, d'accord. Merci, merci Samuel pour le dédos. Oh, comment on se fait raide la tronche. Oh, Robo Bébou, ça y est, il est mort, là. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Genre, ah ouais, là, c'est un vrai dédos. Ah là, on se fait péter la gueule, là. Vous savez que là, le bot qui fait le comptage des follow, là, il s'est mis en protec. Hein. Ah non, même pas.